L'idée, c'est de mettre un peu de l'humour. Et puis, ce qui m'intéresse, c'est la vie de ces hommes là-haut. Alors, j'étais venu vous parler du fort de la Tura et du secteur du Mont-Sny. Eh bien, là, je récidive un peu plus bas avec le secteur du Fréjus. Bon, il me restera encore le secteur de Brabant, le petit Mont-Sny et puis le Mont-Froid-Solière à faire un jour. Mais après, j'aurai bouclé la Maurienne. Alors, ce qui est intéressant sur ce secteur du lavoir Fréjus, c'est que tant que je n'ai pas bossé sur le livre, bah, pour moi, c'était un secteur un peu secondaire, alors pas en 1940, mais dans la défense un peu générale, on focalise beaucoup sur les hautes moyennes. Sur les combats de 45, pour moi, il ne s'était rien passé. Et puis, on connaissait sur 40. Et puis, en travaillant, bah, je me suis aperçu qu'en fin de compte, c'est peut-être le secteur le plus riche de toute la Savoie, par son histoire et par les vestiges qui restent. Donc, n'importe quelle personne qui monte se promener là-haut, qui skie là-haut, passe au milieu de bâtiments du 19e siècle, passe au milieu de la ligne Maginot, passe sur un champ de bataille, passe à côté de certaines infrastructures, ils ne se doutent même pas que c'est militaire. Et puis quand on en parlait, ils font « Ah bah oui, mais bien sûr !» Et je passe là-dessus à ski, je passe là-dessus à pied, je vois ça, et en fin de compte, je ne me doute pas ce que c'est. Donc on va essayer de survoler tout ça. Par rapport aux conférences de Modane, j'ai essayé de réduire un peu, parce que sinon on en aurait jusqu'à ce soir. Je vais essayer d'être un peu concis, mais surtout d'aller voir ce qui se passe là-haut. Alors là, la première chose importante, c'est comme chaque fois, c'est cette nouvelle frontière de 1860 par rapport à celle d'avant, avec bien sûr la frontière qui passe pratiquement sur la ligne de partage des eaux. Alors qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer un énorme saillant, le fameux saillant de Bardonnec, qui rentre profondément en France, et la Maurienne est très dure à défendre, c'est la seule des Alpes qui est dure à défendre comme ça, de vallée, puisqu'on peut la couper au Mont-Sny, ici sur Brabant, sur Modane, voire sur Valmeigné. Donc il y a quatre zones d'attaque potentielles. La Tarentaise vient buter contre Bourg-Saint-Maurice, ou la vallée par exemple sur Briançon, pareil, on va finir sur Briançon, on ne peut pas aller plus bas, il faut prendre la ville. Ici, on peut couper le secteur à plusieurs endroits. Alors, le secteur qui nous intéresse, c'est le secteur qui est là, de Modane, la dernière zone d'attaque potentielle italienne, si on enlève Valoir-Valmeigné, mais qui est secondaire, puisque entre Bardonnec et la frontière, il y a plus de 10 km, et entre la frontière et Saint-Michel, il y a plus de 10 km à vol d'oiseau. Donc, je vous dis qu'il y a déjà un tampon de 20 à 30 km. Là, les routes, alors, routes piétonnes ou les pistes qui sont quand même carrossables, arrivent jusqu'au col du Fréjus, des deux côtés, ou au col de la Roue. Donc, on peut attaquer et s'emparer facilement de tout ça. Alors, eh bien, rapidement, l'état-major français, dès pas 1860, pas l'annexion, mais à partir de 1872, après la défaite face à l'Allemagne, eh bien, va décider de fortifier la France dans le nord, dans l'est et sur les Alpes. Alors, ce secteur de Modane va être fortifié avant tout par les gros forts du Replaton et du Sapin, qui ont des canons qui peuvent tirer sur le tunnel ferroviaire, qui ont des canons qui peuvent tirer sur la Haute-Maurienne, qui ont des canons qui peuvent tirer sur le vallon du Charmer. Alors, ce vallon du Charmer, on ne va pas construire de grosses fortifications dessus, on va laisser les Italiens descendre, et quand ils vont déboucher à la hauteur du Charmer actuel, où la vallée est très resserrée, ben là, l'artillerie peut tirer. Mais en amont, malgré tout, cette vallée, elle s'ouvre sur trois cols principaux, la vallée étroite qui est un peu à droite, ici la Roue et le Fréjus. Et c'est vrai que l'ennemi pourrait s'engouffrer en monde, descendre, amener de l'artillerie pour contrebattre nos forts. Et donc, on va décider de surveiller ce secteur. Surveiller, ce n'est pas construire du dur, c'est construire du léger qui sert à loger des troupes en altitude. Et notamment, on va se jeter notre dévolu sur un point qui est ici pour construire le poste du Fréjus. En 1891, on décide de construire un poste. Alors, nos troupes alpines qui sont à Modane montaient manœuvrant en montagne. Mais bien sûr, tous les jours, il faut redescendre, ou alors on peut camper en été, mais l'hiver, c'est dur. Alors qu'avec ce poste fixe, on va pouvoir rayonner tout le temps. Alors, les troupes qui sont là-haut, ce ne sont pas du tout des chasseurs alpins. Pourtant, ils ont le béret. C'est de l'infanterie alpine. C'est le 97e de Chambéry, qui est basé à Curial, qui a un bataillon en Maurienne, qui est donc alpinisé, mais ce n'est pas du chasseur alpin. Et pour dater la photo, il y a des skis, donc on est après 1905. Voilà, mais après, entre 1905 et 1908, c'est très dur à dire. Ceux qui pourront être là-haut aussi, c'est le 158e régiment de Lyon, qui est à Modane, et qui va détacher les troupes là-haut. Et bien, ce ne sont pas des chasseurs. Et donc, dans cette histoire-là, on verra qu'il y a très très peu de chasseurs. Alors, ce poste du Fréjus, on le construit à proximité de la frontière. La frontière, elle est là, juste là. À pied, c'est 10 minutes. On a trouvé un replat. Il y a de l'eau juste au-dessus, parce qu'il y a un lac qui existe toujours, avec un petit ruisseau qui coule. La pointe du Fréjus qui est au-dessus, elle est menaçante, mais en même temps, si vous regardez bien, il y a un grand replat, là. Il y en a un au-dessus qui va absorber les glissements de terrain. Donc, on est relativement protégé des avalanches. À la base, quand il est construit, en 1891, c'est juste pour l'été. Puis en 1893, on va décider d'occuper tous ces postes d'altitude du Mont-Blanc à Méditerranée toute l'année. Redoutriné, la Tura, Solière, le Fréjus, les Alpes, et ainsi de suite. toute l'année, ce qui veut dire que ces bâtiments qui étaient faits que pour l'été, eh ben on va doubler les murs, on va mettre du lambris, on va mettre de l'isolation, on va renforcer les fenêtres, on va isoler la toiture, et notamment en recouvrant la toiture avec de la mousse ou des grosses mottes de terre, et puis on verra tout à l'heure que la neige qui va tomber, ben ça va isoler. On va mettre des poêles, vraiment tout, comme dans un refuge moderne. On va être pratiquement au top du modernisme de l'époque. Il nous manque le chauffage central, évidemment, l'électricité qu'on aurait pu avoir, mais faut-il la ligne. Par contre, on a le téléphone, bon, qui va moderne, évidemment, qu'on verra que la ligne, des fois, elle est quand même coupée. Alors, pour construire là-haut, bah, qu'est-ce qu'on fait? C'est l'armée qui construit. Donc, on envoie des compagnies, 150 hommes en moyenne, qui vont travailler là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait? Les pierres, bah, on les ramasse sur place. Ça, c'est pas un souci. Les lauzes, on les ramasse sur le terrain. Par contre, le bois, là, c'est un peu plus compliqué. Eh oui, le bois, il n'y en a pas là-haut. Donc, on va descendre dans la forêt d'Arandaz. Pour ceux qui skient à Val-Fréjus, qui sont à la Val-Fréjus, il y a l'arrivée des eaux, la forêt d'Arandaz, c'est en aval. On va couper des gros troncs de mélèze et on va porter les grumes. Vous voyez, ils sont moins 14 à porter la grume. Et de là-haut au poste, moi, je l'ai fait cet été en visite avec des touristes, on mettait tranquillement une heure et demie, mais on portait qu'un petit sac à dos Décathlon. Là, autant vous dire combien de jours ils ont mis pour monter la grume. Et des grumes, il faut multiplier par le nombre de bâtiments. Néanmoins, voilà, on a le temps, on a les hommes. Évidemment que la journée de travail, c'était pas 5 heures, et la semaine, c'est pas 35 heures. Donc, on a du monde corvéable, et on construit le bâtiment. Alors, ce bâtiment, on va l'occuper toute l'année. C'est des volontaires, ils sont 40. 40 à être là-haut, un lieutenant, jeune, dynamique, un médecin auxiliaire qui finit ses études, qui est muté là-haut. Alors, lui, il n'est pas forcément volontaire, le médecin auxiliaire. Et puis, 40 hommes, eux, ils sont volontaires. Alors, pourquoi on serait volontaire pour aller là-haut? C'est que la vie là-haut, elle est beaucoup plus agréable que dans la caserne à Modane ou à Chambéry. La discipline, elle est plus légère, c'est strict dans l'emploi du temps, voilà, il y a une façon de vivre. Comme sur un bateau, il faut tout le monde qui s'entende, parce que s'il y a des dissensions, ben c'est dur là-haut perdu, mais on n'a pas cette discipline, hein, où il faut astiquer son bouton, ses chaussures en permanence. Il y a de l'entretien, on n'est pas débraillé, mais c'est beaucoup plus cool. Alors, là, on a des visites qui sont de temps en temps, on voit les officiers, ben, il y a quand même les femmes des officiers qui montent visiter. Là, vous avez un petit chien, les soldats sont là, le drapeau français, on a planté des fleurs pour marquer 158, c'est entretenu. D'ailleurs, si vous retournez sur le terrain actuellement, les escaliers existent toujours à des endroits, on voit que c'est entretenu. Et il y a vraiment une vie, comme dans un refuge, comme un petit village de montagne où on vit. Alors, en autarcie, c'est pour ça que dans les volontaires, bon, on a des cuisiniers, un boulanger, on a un couturier, on a un ou deux forgerons, on a un menuisier. Parce que si on casse quelque chose, on ne va pas appeler Modane. Oui, l'été, ça va, mais en plein hiver, c'est compliqué. Alors, la vie là-dedans, elle est régulée suivant un emploi du temps. Alors, je n'avais pas l'emploi du temps du poste du Fréjus. Par contre, j'ai l'emploi du temps à la Turée et à Solière. Et on s'aperçoit que, de toute façon, c'est toujours la même chose. On se lève le matin pas très tôt, hein, pas avant 7 heures. Après, on déjeune, on nettoie, et chacun part pour les corvées. Donc, peut-être les pommes de terre, ça peut être la cuisine, ça peut être nettoyer, ça peut être repassé, hein, ou les reconnaissances. Et en fin de compte, ben, on vit au rythme de tout ça. Et puis, c'est coupé à 4 heures par un goûter, avec du thé, avec du rhum. On mange du pain, de la confiture, voire des brioches, hein, on est pas malheureux. Le soir, on fait des jeux. Et puis on va se coucher vers 10h30, 11h, et on recommence le lendemain à 7h. Et puis le week-end, c'est férié, hormis l'entretien du poste et puis des reconnaissances potentielles. Donc en fin de compte, c'est pas des vacances, mais pas loin quand on lit les textes. D'ailleurs, Pierre, c'est toi qui en avais publié, ou c'est Pierre qui avait publié au poste de Solière le texte? Voilà, ben, on voit qu'en fin de compte, ils sont pas malheureux. Et bien quand on reprend tout ça sur toutes les Alpes, on s'aperçoit que, en fin de compte, c'était pas une colonie de vacances, mais qu'on n'était pas si malheureux que ça. L'officier, oh, hein, le poêle, le téléphone, le thermomètre, le journal. Alors, je pense pas qu'il est du jour, hein, quand même. Hein. Mais enfin bon, il arrive comme fréquemment, les raquettes à neige, son sabre et du papier peint. Quand vous allez sur place actuellement, vous dites aux gens, là, il y avait du papier peint au mur, ils vous croient pas, vous montrez la photo. Mais attention, on a encore mieux après, pour manger. Alors, on verra le ravitaillement tout à l'heure, mais c'est vrai que l'été, on ravitaille ça tous les jours, ou tous les deux jours, en viande fraîche, ainsi de suite. L'hiver, c'est plus dur. Donc, on va stocker à l'automne tout ce qui peut se conserver. Conserves, les fruits secs, les salaisons et la viande. Et alors, ça tombe bien, là, c'est une cabane en planche. Comme il doit faire moins 15 degrés dehors, il doit faire moins 14 dans la cabane. Donc, la viande, elle est bien dure, elle se conserve. En plus, on a des animaux, on a une basse-cour. Donc, lapin, poule pour les œufs. Et parfois, on a un cochon. Là, je ne l'ai pas trouvé. À des endroits, j'ai trouvé le cochon. Qui sert de poubelle, il mange tout, puis bien sûr au printemps on va manger la poubelle. Et puis il y a deux nouveaux petits porcelets qui arrivent, et ainsi de suite. Donc on a une vie là-dedans qui est agréable. Ce qui est drôle, c'est que j'avais des photos de plein de postes, et à chaque fois j'ai pas la même chose. Là, le garde-manger, je l'avais nulle part ailleurs. Turin ou d'autres villes, je ne l'avais pas. Et là, je l'avais. Puis il y a des endroits où on avait d'autres photos, d'autres choses qu'on n'a pas là. Mais en recoupant tout, on arrive à faire quelque chose d'assez sympathique. La chambre de la troupe, ah ben, c'est un peu moins confortable. Alors la photo, elle vaut ce qu'elle vaut, mais des photos de l'intérieur du poste du Fréjus, c'est-à-dire que le jour où j'ai trouvé ça, j'étais quand même heureux. Alors on est dans un refuge, on dort sur des bas-flancs, le fusil est là, les lits en haut, le lit en bas, le banc, il y a un poêle, voilà, là-dedans on mettait à peu près 20-25 soldats, parce que les autres sont répartis dans d'autres cabanes. Il y a une chose qui devait être certaine, c'est certaines effluves fromagères, des pieds ou d'autres choses, parce que même si on se lave, malgré tout, ça reste encore. Éclairage au pétrole à l'époque, hein, pas encore électricité. L'officier. Ah oui, au Fréjus. Hein, c'est quand même pas mal. Tu sais, quand les gens visitent le fort du Télégraphe, qu'on voit comment on a remeublé la chambre avec Jackie, ils disent, oh, c'est tout le confort. Mais on s'est inspiré de ça. L'édredon, là, il joue du violon sur d'autres choses. Bah, là, c'est partition. Le papier peint, le petit chevet, la commode. Il avait un coin toilette. Voilà, quand je vous dis que l'officier qui est là-haut, c'est vraiment le paradis, quoi. Un phonographe et ainsi de suite. Que demander de mieux? Alors, ce poste est là-haut, mais il faut communiquer. Donc on peut monter par des sentiers. Mais tant qu'il fait bon, on va monter avec des chariots. Et puis, si l'ennemi attaque, l'été, il faut monter des canons. Donc on va construire une route. Alors la route, elle existe déjà pour aller au Charmel, elle passe par la chapelle. Elle passe jusqu'au lavoir et elle monte au jeu. Voilà. D'un côté au jeu, de l'autre côté, elle va un peu en direction de la vallée étroite. Arrivé au jeu, au hameau des jeux, enfin au chalet, il n'y a plus rien. Donc on va construire une route qui continue avec un gros passage délicat ici au pas des roches, où on va construire un pont. Parce que c'est dangereux. Et d'ailleurs, en 1904, il y aura une avalanche qui va partir et qui va embarder des hommes. Alors, la plupart vont réussir à se mettre à l'abri dessous, mais il y en a quatre qui vont se faire embarquer, heureusement, sans gravité. Ce pont va sauter le 10 juin 40. On reviendra dessus. Et derrière, on ne va jamais le reconstruire. Et à l'heure actuelle, si vous passez, comme on a fait une piste de ski, on a mis ce qu'il fallait comme pierre et comme terre. Et c'est là où ils ont remis une plaque de direction marquée poste du Fréjus, 2,5 km, 97e alpin. Ils l'ont mis à l'emplacement. Voilà. C'est pile poil à cet endroit-là. Là, on verra tout à l'heure que dans cette paroi, on va construire l'ouvrage Maginot du Pas du Roc en 1940. Alors la route, pour la construire, c'est pareil, on n'a pas de bulldozer. Hein. Non, on a des bras, des costauds, on a du monde et on bosse. Donc c'est comme ça qu'on construit la route. Derrière, on voit la route qui monte en direction de la vallée étroite qui part après vers une Mougnouse et au fond. Alors ça, c'est des gros travaux de route. Et après, chaque année, à la fin de l'hiver, bien sûr, il faut tout refaire, nettoyer les cunettes, remettre en place les pierres, parce qu'avec la neige, le vent, la pluie, ça a bougé. Donc il faut l'entretenir, c'est un travail permanent. Donc l'été, on a toujours une compagnie pendant un mois qui va faire ça. Après, il part en manœuvre, il y a deux autres qui arrivent. Et puis les hommes dorment sous des tentes. Alors, une chose qui est primordiale, c'est ça, c'est la ceinture de flanelle. Ça, c'est pour éviter le tour de rein. Eh oui, ça tient chaud. C'est pas une ceinture de force, on peut en avoir une, mais ça se tient chaud. On peut se faire des frictions à l'alcool le soir, et quand ils dorment le soir, ils dorment avec ça. Voilà. Et ils dorment souvent sous des tentes marabouts qu'on verra tout à l'heure. L'hiver, il neige. Alors au début, quand il neige qu'un tout petit peu, au mois d'octobre, parce qu'à l'époque, il neige au mois d'octobre, hein, c'est pas comme maintenant, il fallait dégager la route avec un chasse-neige. Voilà le chasse-neige. Voilà le moteur du chasse-neige. Donc il y en avait deux. Un qui était au Charmet, un en haut. Là, c'est peut-être pour la photo, parce qu'il commence à avoir pas mal de neige. Si vous déneigez la route jusqu'en bas au lavoir avec ça, bonjour. Mais ils sortent les traves et ils tirent. Alors ça peut être un mulet qui tire ou les hommes. Et puis en fin de compte, dès qu'il y a plus de 20 cm de neige, le mulet ne passe plus. Et donc on va arrêter de se tuer à la tâche pour rien. Autre chose, on a le poste du Fréjus, mais on va partir en manœuvre. Et puis imaginez que vous partez, alors le poste du Fréjus il est là, tiens, vous montez à la roue. Il y a le mauvais temps qui arrive. Vous n'avez pas le temps de rentrer. Donc on va construire une multitude d'abris pour abriter la troupe, des petits refuges. Et puis on va construire aux endroits clés comme ici à la roue, à Fontaine Froide ou à la Vallée Étroite, des baraques défensives. C'est-à-dire que c'est des casernements crénelés avec des créneaux de tir pour au cas où si l'ennemi attaque, on va se mettre dedans et on le ralentisse le temps que les renforts arrivent. Alors si vous êtes là-dedans, vous êtes un peu comme dans une souricière. Alors à des endroits, il en reste encore un petit peu. Là, c'est la construction d'un refuge. Donc on voit que c'est comme déjà plus léger, hein, le mélèze est un peu moins gros. À certains endroits, il en reste encore, notamment à la Replanette. Alors ça, c'est celui du col du Fréjus. Si vous y allez, il ne reste plus que les trois pierres qui sont là, pratiquement. Voilà. Mais à la Replanette, il est nickel, il manque que le toit. Voilà. Et il y a plein de graffitis. Dans la Replanette, c'est entre la vallée étroite à droite et à gauche, c'est la vallée de Fontaine Froide, là. Voilà. Au milieu, il n'arrête. Et là, il y a la Replanette. Et il est en super état. Mais vous voyez, crénelé, prêt à défendre. Alors, les lits étaient dedans, à deux étages. On se mettait sur l'étage supérieur pour tirer. Autant vous dire que l'ennemi, s'il attaque, il faut vite que les renforts arrivent parce qu'on ne tient pas longtemps là-dedans. Donc, on va construire une multitude. Alors ces hommes là-haut, faut vivre. Et là, on va découvrir un peu la vie au quotidien de tous ces alpins. Alors là, ils posent, lui, il brosse le pain, lui, il fait la lessive, lui, il fait la vaisselle. Voilà, ils ont la tenue de corvée. Et une bonne partie de la journée va être occupée comme ça, à toutes les corvées qu'on va découvrir. Le soir, on s'embête un peu, donc on peut faire des jeux. Ou alors, on va participer à des veillées. Là, c'est un théâtre. Donc il y a deux militaires, on les voit mal, il y en a un avec une couverture, puis l'autre il est là. RF République Française, HP, hôpital psychiatrique, non je ne sais pas ce que c'est que le HP, enfin bon, HP, non, RF République Française. Bon lui, il n'avait pas l'air d'apprécier vraiment le spectacle, hein, voilà. Mais enfin voilà, on s'amuse comme on peut pour se divertir. Et puis on a le passage, des gens qui passent pour aller en Italie. Alors on peut avoir des colporteurs. Les contrebandiers, alors ils ne sont pas arrêtés les contrebandiers, ils sont les bienvenus. Alors on leur achète, j'ai trouvé des allumettes. Alors je ne sais pas si ils produisaient plus d'allumettes en Italie qu'en France, mais les allumettes. Bon, bien sûr, de la boisson, et ainsi de suite. Et on faisait de l'échange. Et donc vous avez l'officier là qui salue les trois voyageurs, bien équipés. On doit être en hiver, lui il a un grand bâton, là on voit le grand piolet, les raquettes à neige. Et puis ils sont quand même habillés chaudement. Alors j'en ai deux ou trois autres dans la série de photos, ouais, ça caille, ils sont vraiment habillés comme des fous. Alors passer le Fréjus, derrière c'est dangereux quand même. La roue, c'est facile, côté italien, le Fréjus, faut faire attention. Mais enfin, bon, je n'ai pas leur carnet de voyage. Alors, justement, les officiers, eux, ils allaient au col, et là, qu'est-ce qu'ils font au col? Ils observent. Ils observent quoi? Le fort du Bramafon, côté de Bardonec. Et là, on note tout ce qu'on voit. Bien sûr, parce que le but dans tout ça, c'est pas de passer un séjour à la montagne, c'est d'observer ce que fait l'ennemi. Donc, partout, on va voir ça. Alors, à la Tura, par exemple, il y a un poste fixe d'observation. Là, non. On y va, on observe, il fait mauvais, on repart, il fait beau, hop. Et on note et on transmet. Alors, rassurez-vous, les Italiens essaient de faire la même chose de leur côté. Ils montent sur les sommets pour voir ce qui se passe en bas, de l'espionnage, de la photo et tout, pour quantifier les défenses. Alors, on voit les raquettes à neige, hein, l'Alpenstock. Bon, il ne doit pas faire trop froid, ils sont avec leur petite tenue un peu légère, mais enfin bon, ça protège quand même. Photo que j'ai trouvée, qui est très très bizarre, j'ai acheté ça il y a longtemps. Donc vous avez le poste, vous avez un alpin, deux enfants avec des drapeaux, et elle est datée du 13 octobre 1915. Alors on dit, ces postes d'altitude ne vont pas être occupés pendant la guerre de 14, ils sont vides. Ils sont tenus par des gardiens civils. Est-ce que c'est un gardien civil? Est-ce que la photo date d'avant-guerre et qu'elle a été envoyée après? Voilà, j'arrive pas. Alors sur le coup, je me suis dit, il y a le drapeau italien. Ben non, il n'y a pas le drapeau italien, puisqu'il n'y a pas la croix de Savoie dessus. Sinon, ça peut être l'Alliance. Puis en octobre 1915, on est après l'entrée en guerre d'Italie à nos côtés. Voilà, sauf qu'elle était belle, j'ai bien aimé, avec les enfants, l'Edelweiss, ça restera pour l'instant. Et elle est bien tamponnée, 3e groupe bis alpin. C'est le numéro du groupe alpin qui tient ce secteur-là. Voilà. Qui n'existe plus en 1915. Voilà. Vous voyez, c'est un peu dans les mystères, jusqu'au jour où on trouvera la solution. Je vous parlais du téléphone. Il n'est pas portable, hein, le téléphone, à l'époque. Ça file. Déjà, quand on fait visiter le télégraphe aux enfants, on leur parle du téléphone qui reliait le fort, on leur dit bien « à fil ». Ils ont déjà du mal à imaginer. Mais là, le fil, c'est important. Alors, des fois, le fil se rompt. Alors, il faut les réparer. Voilà. Voilà. Donc, 1, 2, 3, on ne sait pas, ça se trouve au-dessus, il y en avait encore un autre. Hein. Non, je ne pense pas, quand même. Alors, pourquoi ils se rompent? La tempête, la neige, le vent, les branches. Et donc, tout de suite, on est isolé. Et donc, ça, c'est bien sûr primordial d'aller réparer pour rester en communication directe. Pendant la Seconde Guerre, enfin, dans les années 30, ça sera un peu différent parce qu'on pourra avoir la radio, les postes radio pour communiquer, bien qu'en montagne, les postes radio français n'ont jamais été très bons. Mais là, à l'époque, on est vraiment isolé. Et c'est le Charmey, Medan. Donc, quand on est là-haut, évidemment, à ski, ça nous fait rire. À l'heure actuelle, on mettrait 10 minutes ou un quart d'heure à y aller. À l'époque, c'est quand même du temps. Alors, ce poste, il est occupé tout l'hiver et au printemps, il faut déneiger. Alors, pourquoi on ne déneige pas avant? D'abord, c'est bête de faire tous les jours un travail qu'il faut recommencer le lendemain, puisque ce n'est pas forcément les chutes de neige, c'est le vent. Le vent provoque des congères, et puis ça ensevelit complètement le poste, mais ça l'isole. On vit dessous comme dans un igloo. Donc on est tranquille, ça isole vraiment bien. Pardon. Par contre, au printemps, dès qu'il fait chaud, la neige fond, ça s'infiltre, et là ça devient un peu plus humide. Donc il faut déneiger. Alors aux Doutrenais, ils ont des gros problèmes d'infiltration d'eau comme ça. Tous les printemps, ça s'infiltrait. Et bien là, on est préventif et on déneige. Or bon, on avait comme 40 soldats, malgré tout, en quelques jours, c'était fait. Regardez, pour communiquer le long des bâtiments, hein, on avait la neige qui faisait comme une grosse carapace, on avait creusé le long du mur, et du coup, on circulait, même en pleine tempête, entre les bâtiments, sans aucun souci. À la Tura, on a construit des tunnels en bois, hein, qui étaient recouverts par la neige. Voilà, on n'avait pas besoin de les creuser, ils étaient automatiquement faits. Là, on les a pas, voilà, on creusait, mais ça allait bien pour circuler. Et puis, la belle saison, à l'automne, tant qu'il n'y a pas de neige, ben, le dimanche, on s'amuse. Alors là, on a le bal, hein, devant la cabane numéro 2. Alors, c'est le bal sans femme, hein, évidemment. On a un joueur de fifre ou de pipeau, un accordéoniste, et on a des fêtes. Et en fin de compte, on s'est aperçu que souvent, le dimanche, eh ben, c'est propice à n'importe quelle fête, un anniversaire, la fête du régiment, la fête de ce qu'on veut. Alors, là, on l'a trouvé là, mais je l'ai retrouvé à la Redoutrenée, je l'ai retrouvé à la Tura, au Chapieu. Donc, si on prend toutes les fêtes bout à bout, on s'aperçoit que tous les week-ends sont relativement occupés. Et ça permet, bien sûr, de ne pas déprimer. On a d'autres photos où il grimpe au mat de cocaïne, où il joue au jeu de la grenouille. Voilà. Il faut s'amuser en permanence. D'ailleurs, même le soir, il faut s'amuser. Et on joue au bingo, là, hein, au loto. D'ailleurs, on tape le carton. Et puis, vous voyez que le linge, il est bien rangé. Voilà. Dedans, c'est pas n'importe quoi, c'est pas un capharnaüm, hein. C'est organisé. Mais du moment que le boulot est fait, le lieutenant, il vous laisse tranquille. Alors, le lieutenant, il participe un peu aux fêtes générales. Par contre, le soir, non, il va rester avec ses sous-officiers dans sa cabane, avec sa cuisine, son ordonnance, et ainsi de suite. On va pas mélanger, hein, bien sûr, les torchons et les serviettes. Les chiens. Alors, les animaux, je vais parler des cochons, de la basse-cour, mais alors, les chiens, c'est omniprésent. Là, il y en a deux, puis pas du, hein, pas un petit spécimen, hein, celui-là est quand même balèze. À quoi il sert? Il sert déjà à mettre de la vie dans le poste, à tenir compagnie. Et puis, c'est une sentinelle. S'il y a quelqu'un qui arrive, il va l'entendre. Il va aussi tenir compagnie à la sentinelle qui, toute la nuit, a monté la garde en attendant une attaque pathétique des Italiens. Ça, c'est intéressant. Il va parfois partir en montagne, alors que ce ne sont pas des chiens d'avalanche. Ils ne sont pas formés pour retrouver. Par contre, il peut peut-être sentir le danger. Et puis pour finir, alors ici je ne suis pas tombé comme flambeau, le chien porteur du courrier. Voilà. Par contre, j'ai d'autres photos où il accompagne les troupes alpines en montagne avec des musettes, où il transporte des médicaments et ainsi de suite. Voilà, ça, c'est un auxiliaire. Et donc le chien est important. Là j'en ai que deux. Dans le livre j'ai une photo, il y en a 10. C'est la légende de la photo, c'est le chenil. Alors photo d'époque, la légende, le chenil du Fréjus. Voilà. Là il y a une dizaine de chiens, des petits, des gros, il y a de tout. Alors, évidemment, avoir des chats pour chasser la souris aussi, c'est intéressant. Donc c'est vraiment une. Un véritable zoo. On a des mules, enfin une bulle là-haut. Alors ça, c'est pour le ravitaillement. Donc tant que ça va bien, on part de Modane, on monte au poste du Charmet. Donc là, on est à la route du Charmet, on voit des oratoires. Là-haut, au Charmet, on continue, on va jusqu'au lavoir. Et au lavoir, on retrouve la corvée qui descend. Et là, on décharge la mule, on le transfère à l'autre, et chacun repart. Ou s'il y a de la neige, on le prend à pied. Donc ça, c'est par la route du lavoir. Si on utilise le sentier, on passera par la forêt d'Arondaz, le sommet des eaux d'Arondaz, le col d'Arondaz, parce que c'est quand même plus rapide à pied. Donc là, vous voyez la mule, elle redescend à vide, et je crois que j'ai vu une qui est pas mal là. La mule, elle doit transporter le coffre de la Brinks locale. C'est énorme. Là, c'est le col d'Arondaz. On a la jonction entre la route qui vient du jeu et celle qui vient du col. Alors, c'est possible que ce soit l'arrivée d'un nouvel officier qui monte là-haut avec toute sa cantine. Hein, puis il monte avec tout ce qu'il faut bien. Donc, on a les deux mulets chargés, les chiens du poste, ils sont venus accueillir. Voilà. Donc ça, bah, tant qu'il fait beau, ça va bien. Par contre, dès que la neige est là, ça se complique. Donc, on va monter dans la neige. Par la forêt d'Arondaz, c'est plus court. Et puis, dans la forêt d'Arondaz, on est à l'abri des avalanches. Ça, c'est des carcasses de viande qu'on transporte. Ça, on le voit mal, mais c'est une tête de veau. J'ai mis du temps à voir ce que c'était, puis j'ai mis c'est une tête de veau. Voilà. Et donc on monte la viande, on monte les légumes frais, dès qu'on peut, dès qu'il fait beau, on le fait. Et bien sûr, en cas de danger, on ne monte pas, on a de quoi tenir. Mais le fait de manger de la nourriture fraîche, ben, c'est quand même meilleur pour la santé que de manger que des conserves. On a vu ça sur les bateaux. Alors ces corvées, ben, elles montent, mais parfois, ben, il se passe des choses. Et bien sûr, va se dérouler une avalanche. Quand vous travaillez sur les postes d'altitude des Alpes, il y a toujours la catastrophe du poste. La Tura l'a eu, la Redoutrenée l'a eu, les Chapieux l'ont eu. Eh bien, ils l'ont. En 1901, au mois de décembre, ça va être Noël. Donc, on a des cadeaux que la famille a envoyés aux hiverneurs. Alors, ils sont montés au Charmet. Du Charmet, on va les monter dans la forêt d'Arondaz. Et bien sûr, des hommes vont partir du poste du Fréjus, passer le col d'Arondaz, descendre pour aller chercher ces fameux cadeaux. Sauf qu'en descendant, dès qu'on franchit le col, eh bien, premier craquement sur la droite, une première coulée arrive. Ça part, c'est en onze plis. Ils étaient trois cordées. En gros, trois cordées de trois ou une de quatre et deux de trois. Bien sûr, ils se sont embarqués. Il y a une cordée qui a de la chance, c'est que la corde s'accroche à des poteaux téléphoniques, la ligne téléphonique, et donc les hommes ne sont pas emportés. Ils se dégagent, ils commencent à sortir leurs camarades, évidemment. Côté gauche, ça part à ce moment-là. Deuxième avalanche. Et hop, c'est le deuxième effet qui se coule, on leur met une couche dessus. Et là, ben, il y a trop de neige, c'est dur. Donc, les valides vont commencer à creuser pour essayer de trouver. Les autres, il y en a un qui va descendre carrément au chalet d'Arondaz via un téléphone, appeler Modane pour envoyer des secours. Il n'y a pas d'hélicoptère, donc le temps que le secours monte, c'est bon quand même. Hein, voilà. Et en même temps, Modane va appeler le poste du Fréjus pour que les secours viennent. Donc, on a des secours qui arrivent des deux endroits. Le Fréjus, il met une demi-heure. Autant dire qu'ils ont cavalé pour venir. Ils arrivent, ils commencent à creuser. Mais il y a des mètres de neige, des mètres de neige, des mètres de neige. Modane va arriver que le soir. Donc, autant vous dire que la chance de survie sous l'avalanche, c'est 20 minutes, une demi-heure. Donc là, c'était déjà un peu dur. On va retrouver quelques corps, mais pas tout. Le mauvais temps arrive, on repart, on reviendra le lendemain et on trouvera les autres corps. Alors, cette catastrophe d'Arondaz, elle est passée dans tous les petits journaux de l'époque. Alors, bien sûr, c'est toujours un peu la avalanche qui arrive, qui les embarque. Ça va marquer profondément les troupes alpines, à tel point que derrière, on va construire un monument. Ça, c'est la construction du monument. Donc, si vous passez à ski l'hiver ou l'été, le monument, il est toujours. Hein ? Alors, il est exactement comme ça. Alors, il est cassé. Non, il a toujours été construit comme ça, d'une façon comme une montagne, le sommet. On a l'annon des 6 ou 7 tués, j'arrive plus à me souvenir combien il y en avait. Mais surtout, on va mettre un holà à l'occupation des postes. C'est le énième accident qui arrive. Occuper ces postes sous l'hiver, c'est trop dangereux. Donc, tous ceux qui ne sont pas stratégiques, on arrête de les occuper en 1902, c'est fini, on n'y va que l'été, sauf deux. La redoute Ruinée qui domine le petit Saint-Bernard et la Tura qui domine le Mont-Cenis parce que c'est les cols frontaliers avec des routes potentielles. Voilà. Le zone, c'est que des passages d'altitude. On arrête totalement. Ce qui fait que ce poste du Fréjus, en fin de compte, l'hiver, il ne sera pas occupé. Et comme le ski arrive dans l'armée en 1905, eh bien, ce poste du Fréjus ne sera jamais utilisé l'hiver avec des skis. Par contre, le ski, on va revenir dessus tout à l'heure, on l'utilisera pour aller visiter le fort. On va quand même parler vite fait de nos voisins, les Italiens. Alors on est à la frontière. Alors la croix a un peu changé de place. Alors il y a un récit qui est assez sympathique où c'est très cordial. Ça peut être un ennemi potentiel. En même temps, c'est pas vraiment un ennemi qu'on a voulu. En plus, la plupart, c'est nos cousins d'il y a 40 ans avant. C'est assez cordial. Mais c'est un peu à l'esbrouf. Donc on se salue cordialement, tout. Et chacun va essayer de faire défiler la troupe mieux que celui d'en face. Alors le texte, c'est assez drôle que les Italiens sont garde à vous, hein, et les Français font pareil, voilà. Mais c'est très cordial. Et alors surtout, l'officier français, théoriquement, n'a pas le droit de passer de l'autre côté de la frontière. Parce que là, on peut l'attraper. Et vice-versa. Alors il y aurait un accident de montagne, ils sont partis en reconnaissance, le Français va basculer côté italien, les Français vont appeler les Italiens qui n'ont pas retrouvé le corps, il sera ramené qu'au printemps, mais là, il est mort. Parce qu'il y a une deuxième histoire, c'est que le Français, il est tombé de l'autre côté. Il a tout fait pour vite remonter, pour passer, parce qu'il était essayant de considérer comme passer dans un pays ennemi et considéré soit comme un déserteur, soit voilà. Alors ça, c'est voilà, les problèmes à la frontière, mais c'est vrai que là-haut, je ne suis pas tombé sur des gros problèmes de friction entre les deux pays. La reconnaissance en plein hiver, ben avec les chiens, on part, donc on n'a pas les skis, ce qui fait qu'on a rien d'action qui est très limité. Quand on aura les skis, même à partir de 1905, je suis tombé sur des parcours où on part de le petit Saint-Bernard, on va à Val d'Isère, maintenant on passe l'Isran, ben Bonneval, avec des skis en bois, des lanières en cuir et tout. Là-haut, le ski, on ne l'a pas eu tout de suite. Petite photo que j'aime bien, à la chapelle du Charmey, hein, il est descendu à Modane. Alors on descendait à Modane pour aller faire la fête, pour aller à un bal, pour acheter des effets. Bon, là, il est en grande tenue, même sortie. Alors l'avantage, c'est que si on va à un bal, on peut aussi rencontrer une jeune fille qui, elle, ne veut pas se marier qu'un Modanais parce qu'elle est déjà mariée avec son cousin, et ainsi de suite. Et on peut, voilà. Donc si lisez quelque chose comme ça, qui s'appelle Le Poste des Neiges, qui est un roman des frères Marguerite, qui date de 1900, on le trouve de temps en temps, je ne sais pas si tu l'as, c'est succulent et ça se passe au fort de la Tura. Bah, ça raconte un peu ça aussi, de trouver... mélanger avec la population, c'est assez sympathique. Alors le ski. Le ski, on l'a pas au poste du Fréjus, on l'a à Modane. Donc à partir de 1902, qu'on arrête d'occuper le fort, l'hiver, on va monter toutes les semaines, tous les 10 jours, monter, visiter, inspecter si le poste a été attaqué, visité, pillé. Une fois, on va tomber sur un volet qui était ouvert. Ils pensent que c'est des gens qui ont été pris dans la tempête, qui l'ont ouvert pour entrer dedans, parce que rien n'a disparu. Donc là, on monte dans la forêt. Alors c'est pas tous des grands skieurs, parce qu'ils portent les skis... sur le dos, ils montent, et puis il y a toute une série de photos assez célèbres qui existent même en carte postale d'époque où ils skient dans le ballon d'Arondaz. Mais c'est vrai que c'est pas l'endroit où le ski était le plus développé. Une dernière chose avant la guerre de 14, c'est qu'on va faire des cartes, cartographies de tout le secteur, parce qu'on avait bien des cartes, mais elles étaient un peu obsolètes, un peu vieilles, donc on va faire des cartes et on va faire des guides de secteur. C'est ni plus ni moins que les topo-guides de l'époque. Voilà, on en trouve, donc là on a la carte détaillée, c'est bien détaillé, et puis à côté on a les temps de parcours, et quand on tourne, après on a les passages par différents cols, et surtout on a les ressources en eau, en vivres, les chalets où on peut se reposer, et ça existe sur toutes les Alpes. Voilà, et donc ça c'est le guide du secteur autour de Modane, qui va entre Valoire et Modane, qui était dévolu à ce troisième groupe bis alpin. Donc l'armée va aussi améliorer les sentiers, les baliser, faire des relevés, travailler sur des sentiers. Par exemple, pour aller à Valoir, le plus rapide, c'est pas de redescendre à Saint-Michel, c'est de passer la crête des Sarrasins, puis sorte de remonter col des marches, redescendre sur Valmeny, remonter pas des griffes, redescendre à Valoir. Et bien tous ces sentiers, c'est l'armée qui les aménage, qui les entretient. Le but, c'est que ça soit même presque praticable avec des mulets, avec de l'artillerie. Voilà. Et c'est en permanence. Alors là, je vous le fais court, hein, parce qu'il y a tout un sujet sur ces routes. Première guerre mondiale, rien ne se passe là-haut. Sur la fin de la Première Guerre mondiale, les troupes alpines ne reviennent pas tout de suite. Elles sont d'abord en Silésie, elles vont aller dans la Roure, elles sont dans l'Est de la France. Il faut attendre 1930 pour qu'on vienne, mais on trouve des troupes alpines qui ont tout sauf quelque chose d'alpin. Et oui, nos troupes alpines d'avant la guerre de 14, la plupart des officiers ou des sous-officiers, ils sont morts au front. Ceux qui ont survécu, ils sont montés en garde, ils ne sont plus là. Les soldats, ce n'est pas les mêmes, mais en fin de compte, on ne connaît rien à la montagne. Donc pendant 2 ou 3 ans, il faut relancer la machine. Mais 1930, c'est vraiment le gros début avec des grosses manœuvres. Là, on est au-dessus de la voie, ils sont avec des mitrailleuses, on voit la route, hop, là, la roue qui va là, là, ça va partir sur le, vers les Jeux, et c'est les premières grosses manœuvres alpines qui reviennent dans le coin. Puis, les grosses manœuvres, parce que là, on a des chars. On va dire des chars en montagne, eh ben, là, ça va, ils sont sur la route. J'ai vu des films, c'est pâté qu'à ça, on les voit même sur le net, ils sont toutes bonnes sur un, dans des descentes, voilà. Ils vont pas être dedans. Donc on a des manœuvres alpines, on a des spahis qui sont là, on a des tirailleurs marocains, on a des alpins, on a de tout. Et quand ça se met à brasser, ça brasse. C'est pour ça que quand vous promenez, des fois vous trouvez en montagne des ronds. Alors là on les voit bien, des fois on les voit moins. Des grands ronds qui font à peu près 6-7 mètres de diamètre. C'est ni plus ni moins que des emplacements des tanks pour les manœuvres. Le Marabout 1901. Ça c'est la route qui arrive du Jeu, là il y a le Pas du Roc. Et ça c'est la route qui arrive d'Arandaz. Quand vous y allez actuellement, vous voyez encore tous les ronds par terre là. Ben, il y en a à Solière, il y en a pas mal d'endroits. Quand il y a ça, c'est on a bivouaqué là, soit pour des travaux de route, souvent, soit pour des manœuvres alpines. Et on a des photos où c'est des camps complets, où il y a presque 200-300 tentes, parce qu'on met 10 hommes dedans, mais vous savez, quand il y a 3000 soldats à loger, ben, faut bien ça. Donc c'est un nid de tentes. Le poste du Fréjus va être occupé à partir de 1930, toute l'année. On y retourne toute l'année. Et ceux qui vont venir là, eh ben, c'est des chasseurs alpins. Ils viennent de loin, ils viennent d'Annecy, c'est le 27e bataillon de chasseurs alpins. Bon, qu'est-ce qu'ils font là? Eh bien, c'est qu'on n'avait personne d'autre à mettre. Donc on a pris le 27 qui vient d'arriver à Annecy, parce que le 27 était un menton à la base. Hein. Le 27, il n'est pas du tout de Haute-Savoie. Mais il vient d'arriver à Annecy et on va détacher des hommes là-haut. Alors il y a un homme célèbre qui va aller là-haut. J'ai lu un endroit qui s'est cassé la jambe là-haut. Je ne suis jamais arrivé à le retrouver. Il s'appelle Émile Allais. Alors, aux jeunes, je dirais. Est-ce que tu sais qui c'est Émile Allais? Voilà. Les plus anciens, vous savez qui c'est Émile Allais? Voilà, bah alors, mais bien sûr, premier champion français olympique en 36. Eh oui, médaille, bon, combiné. C'est un des grands champions français qui a créé plein de stations de ski. Émile Allais fait son service là-haut, s'est cassé la jambe là-haut. Voilà. Mais ça, je l'ai vu là. Ça, ça doit t'arriver, tu l'as vu quelque part. Tu recherches, où c'est que je l'ai vu. Voilà. Bon, enfin bon, Émile Allais n'est pas sur la photo quand même. Mais le 27, il y aura un drame. L'avalanche du Fréjus. Il y a eu celle d'Arandaz, mais une autre avalanche. Le chasseur Ballon au 27e Bessa qui va mourir. Alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, une énorme avalanche va partir du Fréjus, va descendre, va embarquer un petit morceau de la cabane des officiers qui est là, mais surtout, la cabane qui était là, hop, elle a disparu. Et le chasseur Ballon va être tué. Donc, contre ça, qu'est-ce qu'on va essayer de construire? Un paravalanche. C'est cet énorme mur que vous voyez là-haut, tac, qui est là, qui devait être prolongé. Ça, on l'a construit en 36, en 37, il aurait dû venir jusque-là, puis en fin de compte, on n'aura pas l'argent. D'ailleurs, le voilà actuellement. Il est toujours là. Impressionnant quand même. Voilà. Ça, c'est un assez important. Deuxième chose, ce poste du Fréjus, on va relier des baraques entre elles. Donc toutes ces baraques sont reliées et on va construire une infirmerie en plus. Donc que vous avez sur le terrain actuellement, vous voyez l'infirmerie, parce qu'il y a plein de carreaux d'infirmerie par terre. Ensuite, l'idée, c'est que ce poste, il est trop petit. Donc on va avoir une deuxième idée, c'est de construire en dessous un nouveau casernement beaucoup plus moderne. Alors, le problème, c'est qu'on est en pleine construction de la ligne Maginot. Donc, l'argent est pris par plein de chantiers. Ça va mettre du temps. Et en fin de compte, on va construire le bâtiment en 39 et en 40, il ne sera pas opérationnel. On va l'arriver dessus. Les chiens sont omniprésents parce que c'est exactement la même vie qu'avant la guerre 14. Hein. Voilà. On a les chiens, on a le déneigement. Voilà. Alors, qu'est-ce qui change? On a l'électricité. Ah ouais, c'est mieux. On a la radio, le poste radio pour écouter la radio, la TSF. Donc, c'est déjà mieux, on s'embête moins. On a la radio pour communiquer, bon, c'est mieux, mais enfin, en montagne, c'était pas forcément le top. Mais on retrouve, on a les skis. Et à l'époque, le ski, il est comme développé et on a un niveau de ski qui est beaucoup monté. Donc, c'est vrai que pour communiquer, c'est plus rapide. Mais sinon, on reprend la vie d'avant 14 et on la transfuge à cette époque-là. Alors, pour habiliter et tout ça, on s'est dit, tiens, c'est intéressant, les transports par câble. On va installer des téléphériques. Alors, le téléphérique, le premier qu'on va faire, c'est le Charmey, le Lavoir. Donc ça, c'est la recette supérieure, l'arrivée du téléphérique. Alors attention, c'est des petites bennes. D'accord ? C'est un téléphérique de campagne, c'est-à-dire que c'est celui qui est démontable, transportable partout, qu'on va mettre là-bas. Si vous allez à Saint-Gobain, ils en ont un en extérieur qui est plus récent, qui est juste des années 50, mais c'est exactement le même système. D'ailleurs, je crois que j'ai un pylône, voilà. Faut pas tomber, hein. Et le haut-banné, voilà. Donc c'est pas quelque chose qui est fixé dans le sol, dans du béton, c'est haut-banné. Et on avait cette ligne qui faisait le Charmey, le Lavoir. Et puis là, on va réfléchir, je suis mis sur des projets fous, Modane, Charmey, Lavoir, poste du Fréjus. Et comme ça, on est tranquille. Sauf qu'on va voir dans 5 minutes qu'on va construire la ligne Maginot et on va construire déjà le téléphérique qui va au Pas du Roc. Et donc ça fait un doublon, donc on va abandonner, on va garder que celui-là qui va perdurer jusqu'à la guerre. Au Lavoir, on va construire un poste temporaire. Donc ça c'est une baraque démontable, c'est très moderne pour l'époque. On va construire une énorme plateforme et dessus on va construire ça. C'est temporaire, parce qu'après, normalement, sur la plateforme, on doit construire un énorme casernement qui existe actuellement, dont on reparlera après, mais la plateforme a été faite en 1934. Dedans, on va mettre des troupes, une section d'éclaireurs skieurs du 99e RIA, chargée de surveiller la frontière, mais surveiller avant tout autre chose. Derrière, la construction de l'ouvrage Maginot du Lavoir. Enfin, de surveiller toutes les constructions du secteur. Et donc, pour ça, on va mettre des hommes dedans. Alors là, c'est chauffage central, électricité, voilà. Les douches chaudes, voilà. Là, c'était l'hôtel du Lavoir. C'était franchement super agréable. En arrivant au Lavoir, sur la route, peut-être que certains ont vu, avant d'arriver à l'ouvrage, sur le côté gauche, il y a deux entrées, comme ça m'étonnait. Et donc ça, qu'est-ce que c'est ? C'est un paravalanche. C'est-à-dire qu'on va creuser un tunnel qui est parallèle à la route, donc la route avec le pont, on va creuser un tunnel qui fait le tour pour que les troupes puissent passer en évitant ce couloir avalanche. À la base, on aurait dû faire un tunnel routier. Et puis, ça coûte. Et puis, en plus, le terrain s'effondre. Donc, résultat, stop, on va faire un tunnel piéton qui sert aussi d'abri en cas de bombardement. Donc, pendant très longtemps, moi, je voyais ça, on s'en doutait que c'était ça. Et quand vous êtes aux archives de l'armée, et vous trouvez le carton, vous ouvrez le plan, et vous voyez le plan du paravalanche, vous êtes content parce que vous avez quand même réussi à trouver quelque chose qui conforte ce que vous pensiez depuis toujours. Alors, c'est bien le rôle d'aller chercher dans les archives, mais c'est vrai qu'on se dit bingo. Alors, je voulais parler de ce nouveau poste du Fréjus. Là, on a l'ancien poste du Fréjus, et en dessous, on va décider de construire ce gros poste hyper moderne. Voilà. Alors, ça va prendre du temps, ça va être long. On va construire, mais il ne sera pas opérationnel. Regardez comme ça fait moderne. Voilà. On est juste à la fin des années 30. Au-dessus, ce qu'on voyait, c'est derrière l'ancien poste qui est en arrière, et ça, dessous. Malheureusement, il ne sera pas terminé, et quand vous allez sur le terrain actuellement, ben voilà ce qui reste. Hein, on voit cette façade, assez renforcée, un grand plateau à plat pour que l'avalanche passe par-dessus. Alors, pourquoi il est en mauvais état au bout ? Alors, la guerre est passée par là, et puis Michel Vial, qui était le président de Saint-Gobain, qui était à la police de l'air et des frontières à l'époque, il y a plus de 25 ans, m'avait dit, on avait trouvé une bombe du bombardement de Modane, et on l'a mis contre, on l'a fait sauter. Ce qui fait que c'est pour ça qu'il y a une partie qui a été exposée. Cette histoire a été confirmée par d'autres personnes. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça qu'il a pas abîmé. Et quand on est rentré dedans cet été, toute cette partie-là, elle est pas mal. Alors, il faudrait faire des travaux lourds, mais néanmoins, on pourrait faire quelque chose. Pour faire quoi ? Un refuge, un petit resto, un petit bar l'hiver, ça ferait revivre le poste du Fréjus. Bon, je suis un peu utopique, moi, mais voilà, c'est dommage parce que c'est là-haut et puis ça pourrait servir à quelque chose. Si vous montez là-haut, autant le poste, il ne reste plus que des tas de ruines, autant ça, vous pouvez rentrer dedans. Donc cet été, avec Val Fréjus, on a organisé des visites. Vous montez au sommet des œufs, vous prenez le chemin d'Arondaz, bon, sauf si vraiment vous n'avez plus du tout à marcher, hein, mais sinon il faut une petite heure pour arriver au chemin d'Arondaz, aller 1h15, et après, à flanc de montagne, ça descend plus tout, il y en a pour 20 minutes. Donc en gros, en 2 heures, vous êtes au poste du Fréjus. Si vous rajoutez un quart d'heure de plus, vous voyez Bardonec. Et le retour est facile. Voilà. Maintenant, je sais que c'est pas. Mais c'était bien, cet été, ça a bien marché et ça a beaucoup plu aux gens d'aller visiter tout ça. Alors, on a ces fortifications, sauf qu'on arrive dans les années 30, avec les nouvelles tensions avec l'Italie, Mussolini après le pouvoir en 1922, et on va décider de fortifier. Et l'endroit qu'il faut fortifier en Savoie, c'est Modane. Face à la Maurienne, avec les forts. Le Sapet, le Saint-Antoine, le Saint-Gobain, et le barrage du Fréjus avec le Lavoir, le Pas du Roc. Alors, pour le Lavoir, il est là. C'est le plus gros de Savoie, près de 500 hommes d'équipage. Le Pas du Roc est un peu plus petit qui est là. Ça, c'est d'ouvrage d'artillerie qui peuvent tirer des canons assez loin. Derrière, loin, on a le Sapet qui tire sur tout le monde. Ensuite, aux avant-postes, pour bloquer l'école, on va construire l'ouvrage du Fréjus, de la Roue et de la Vallée Étroite. Et pour terminer, on va construire des petites positions à droite et à gauche, faites de tranchées, sacs de sable, petits abris pour bloquer tout ça. On va tendre des barbelés de partout, et ça, ça va devenir la zone principale à défendre en cas d'attaque italienne. Alors, certains ont eu la chance d'aller dans des ouvrages Maginot, alors Saint-Gobain se visite, les autres sont fermés. Manu, qui est caché je ne sais pas où, là, le fait visiter l'été de temps en temps, et on voudrait essayer de développer la chose avec l'office de Haute-Maurienne pour aller voir le Lavoir. Alors attention, au Lavoir, il y a un gros problème qui va arriver dans 2 minutes. Et pour les Mollets, vous allez voir quelque chose. Le Lavoir, ça, c'est un bloc de combat. Dessous, c'est une ville souterraine. Ça, c'est le plus gros bloc, le bloc 5, avec les canons qui tirent là, mais des canons qui sont en dessous aussi, qui tirent avec des mortiers. On va voir ça. C'est énorme. Voilà le problème au Lavoir. Il y a 537 marches à monter. Et là, il y a de la lumière, parce qu'il y a eu un gros flash, sinon, il n'y a rien du tout. Et il y a 537 marches à redescendre. Voilà. Donc, c'est ce qui est un peu dur quand on est là. Et on a la lampe électrique. Alors, le Lavoir, il y a l'entrée du bas, l'ouvrage en haut, il y a une route extérieure, mais elle s'est effondrée à plusieurs endroits, mais une entrée haute. Et entre les deux, on va construire ce grand escalier qui est doublé avec un grand plan incliné, avec le wagonnet qui monte et qui descend. Rappelez-vous que la Imaginot, peut-être que vous avez un souvenir de ce qu'on faisait après l'école, peut-être de vos parents, qu'elle ne servait à rien. En vérité, l'Imaginot, elle a été construite pour 2 choses. Mobiliser notre armée, et tranquillement, pour éviter une invasion rapide ennemie. Elle va le faire. Bloquer une invasion ennemie, elle va le faire. Où les Allemands vont vous attaquer? Quand la Imaginot cesse d'être l'Imaginot, que ça reste plus que des petites casemates après l'ouvrage de la Ferté. Ils vont prendre un ouvrage sur toute la France, c'est la Ferté. Il y a eu 104 Français, il y a 104 morts. Tous les autres ouvrages, ils vont se casser les dents dessus. Donc c'est que l'Imaginot va réussir son rôle. Par contre, c'est après qu'on ne va pas réussir notre rôle. Et c'est que l'Imaginot, c'est un concentré de technologie, pour l'époque, c'est exceptionnel. Alors on se dit, mais les Alpes, ça suffit à se défendre, pourquoi construire ça? Ben non, parce que Hannibal est passé, Napoléon est passé, François Ier est passé, et malgré tout, on se dit, l'Italie, c'est beau être que l'Italie, ils ont quand même du monde, ils ont une armée qui était quand même pas mauvaise à l'époque, ça fait du monde, il faut fortifier. Et c'est pour ça qu'on va se lancer dans tout ce programme, ça paraît fou de construire ça à ces aptitudes-là, cet argent dépensé pour ça, mais néanmoins, pour l'époque, c'était nécessaire. Et puis c'est de la dissuasion. C'est comme la bombe atomique, on a la bombe atomique, on nous attaque pas, on est fortifié, on nous attaque pas. Bon, malheureusement, les Italiens ont attaqué. Mais heureusement, parce que sinon, ils ne feraient pas de conférence. Ben oui. Allez, l'ouvrage, je vous parle, là, l'entrée du bas, l'escalier qui monte, qui monte, qui monte, et qui arrive en haut. Il y a ce grand couloir principal qui dessert toutes les zones de vie, les cuisines, les WC, les réserves à vivre, les chambres à filtre, à gaz, et tout pour vivre en autarcie pendant 2 mois. Et puis après, on se dispatche vers tous les blocs de combat, où également il y a de quoi vivre, il y a de quoi dormir, et il y a de quoi avoir des filtres pour filtrer l'air. Et donc c'est une vraie usine souterraine. Alors les mortiers, bah, les voici. Voir comment ça marche, bah, je vous ai mis la coupe. Donc on ne voit pas du tout où on tire, évidemment. Et ça c'est du tir court, et en montagne c'est exceptionnel, puisque l'ennemi est caché derrière une crête, on tire, et ça passe par-dessus, et ça va lui percuter dessus. On a les filtres à gaz. Alors on a tellement une peur pendant la Première Guerre mondiale de cette utilisation du gaz, qu'on va mettre des filtres à gaz partout. L'ouvrage dégage de l'air, prend de l'air sur des caches, des conduits très très loin, prend de l'air frais, rentre dedans et recrache de l'air par les conduits les plus évidents. Donc si l'ennemi jette du gaz dedans, il se fera rejeter le gaz. Alors, il y en a encore au Lavoir, par contre au Pas du Roc, il n'y en aura pas, parce qu'on considère qu'à cette altitude-là, les Italiens n'utiliseront pas de gaz. Mais sinon, voilà, on a tous ces filtres à gaz pour filtrer l'air en permanence. L'entrée du bas, donc la piste de ski, elle passe là, ou la route. Ici l'entrée, qui sert aussi de canon anti-char. Et on avait mis des rails dans le torrent, au cas où les chars italiens attaquent. J'avais cette photo. Cette photo, je l'avais dans un album avec le Lavoir. C'est là-haut. En plus, il y a l'insigne de l'artillerie du 154e RAB qui est là. Ah, je l'avais, j'ai cherché. Alors, je l'ai envoyé à tous les gars de Modane, notamment les Nuers, qui ont acheté à côté. Oh, on ne connaît pas, on ne connaît pas. Et puis, sur un site qu'il faut aller voir si vous intéressez un peu aux fortifications, c'est Wikimaginot. Facile à souvenir, hein, Wikipédia, Wikimaginot. C'est fait par des fondus, il y a tous les ouvrages de France et de Navarre. Et dedans, je tombe sur quoi? Sur ça. Je mets porte, fenêtre ronde. Porte, fenêtre ronde. Ben oui, évidemment. Et ben voilà, on a retrouvé le bâtiment. Enfin, tout le monde, c'est juste à côté de l'entrée du haut. Donc ce que j'aime bien, c'est trouver une photo, pas savoir où c'est, puis avec la contribution de plein de personnes, bah, d'arriver à situer la chose, voilà, de voir ce chalet. Alors au-dessus, on a le Pas du Roc. Le problème du Pas du Roc, c'est que c'est un chantier qui est important, mais l'altitude est des plus hautes. Donc la neige arrive plus tôt. Donc on construit comme on peut. Et au moment de la déclaration de guerre, le Pas du Roc, il n'est pas terminé. Et donc il y a un officier qui va être nommé là-haut, un officier du génie qui s'appelle Chanson, qui est nommé pour finir les travaux d'un gros bloc de combat. Il dit, moi je prends les travaux, mais dans ce cas-là, je prends le commandement de l'ouvrage. Eh bien d'accord, on lui accorde. Eh bien le Pas du Roc, ce sera le seul ouvrage de France commandé par un officier du génie. Normalement, c'est un artilleur ou de l'infanterie. Qui va diriger les travaux? Alors, quand je vous dis les travaux, vous avez vu, il y a des points inclinés, des transports par câble, et il va construire ici un énorme bloc de combat en plein hiver. Voilà. Alors, il ne sera pas tout à fait terminé en juin 40, mais ça sera assez intéressant. Évidemment que les ouvriers qui bossaient là-haut, vraiment, quand ça a été le mauvais temps, ils repartaient. Par contre, durant l'hiver 39-40, les soldats vont y passer toute l'année à bosser dedans. L'arrivée du téléphérique, donc on la relie à la vallée, par un téléphérique qui est ici, avec le pylône, hop, ça rentre dans l'ouvrage Maginot. Normalement, l'entrée devrait être plus grande, mais faute de temps, elle s'est arrêtée là. C'est blindé, c'est bien protégé, et normalement, ce pylône aurait dû être recouvert d'une grosse carapace de béton. Pareil, question financière, ben, on ne l'a pas monté. Alors, la gare de départ, s'il y en a qui skient là-bas, ben là, voilà, la route passe autour. Alors, ça a été racheté plusieurs fois, et maintenant, dedans, c'est aménagé comme une habitation. Alors, il ne voit jamais le soleil. Voilà, même le 15 août, il n'y a pas de soleil là-bas. Mais la route passe autour, mais c'est assez sympathique. Et donc, le téléphérique partait de là et montait donc au Pas du Roc. Ce qui fait que, comme il y a eu ce téléphérique, ben, le téléphérique de campagne prévu pour aller au col du Fréjus, on va l'abandonner, c'est des travaux pour rien. L'ouvrage d'Arandaz, au col d'Arandaz, si certains ont skié à la grande époque, le télésiège arrivait dessus. Enfin, il arrive toujours, mais à l'époque, il montait, il redescendait de l'autre côté. Là, maintenant, il remonte, il s'arrête là. Et tout ça va disparaître. Ça, c'est une photo des années 80. On voit encore ce qui reste actuellement, c'est que ça, l'ouvrage d'Arandaz. Alors, ça, c'est les avant-postes. C'est la même que le lavoir, mais beaucoup, beaucoup plus petit. Et dedans, la vie, eh bien, elle se faisait autour de ça. On avait une cuisine, bon. On avait une chaudière, qui faisait aussi chauffage central, l'évier. Puis pour dormir, on avait des lits. Bon, il ne fallait pas être claustrophobe, d'accord, ben, c'était quelque chose. Alors attention, comme dans tous les ouvrages Maginot, on ne vit pas dedans en temps de paix. On est à Modane. Ou alors, on va loger dans des tentes à côté. Et c'est qu'en cas de conflit. Et nous, le conflit, c'est le 10 juin 40 que ça commence la guerre. Donc, on va occuper l'ouvrage que le 10 juin 40. Voilà. Bon, enfin, du 10 au 25 juin, ils vont passer 15 jours là-dedans. L'ouvrage du Fréjus. Ah, il est beau celui-là. Il est sur le côté droit du vallon. C'est exactement la même chose. L'entrée en bas, les blocs de combat. Et je crois que vous avez mis comme la chambre. Voilà. Alors là, les lits sont encore mieux. C'est du béton. Voilà. Mais il y a une cuisinière, il y a un chauffage. D'ailleurs, regardez, pour chauffer en haut, il y a les radiateurs, il y a de l'eau, et pour ventiler, on a un ventilateur à bras. Voilà, c'est comme ça. L'ouvrage de la Roune, petite vue de drone. Alors lui, ce qui est bien, c'est qu'il a sa tranchée bétonnée, voilà, qui est super beau. Alors, qui c'est qui va tenir ça? J'en parle souvent, c'est l'adjudant Lissner. Pour ceux qui connaissent, c'est le père de Monique Filleul, voilà, qui a fait les Jeux Olympiques en 1936. Dans l'équipe de France militaire, qui va défendre ça, et qui aura une très belle carrière militaire derrière. Alors la roue, allez-y, c'est splendide, c'est super beau. Et puis, en contrebas de la roue, vous verrez, ces grosses carcasses, eh bien, c'est le casernement de temps de paix. On appelle ça des abris Adrian. Adrian, c'est celui qui a construit le casque Adrian, d'ailleurs, 14, c'est un ingénieur, et il va construire ces abris qui se montent et qui s'assemblent. Alors on en trouve à des endroits qui ont servi aux agriculteurs. Quand on monte à Valoir-Jacquie, il y en a... des grandes scènes de la Bizarre d'en haut, hein, on le voit bien. Alors ça, c'est bien. Et dans un album photo, même si la photo est crade, on m'a sorti ça. Et là, vous avez les mêmes, mais à l'époque, nickel, avec des sacs de sable, de la terre, le chauffage, et donc la garnison logée dedans. Alors, je vous le mets avant. Voilà. Malheureusement, la photo n'est pas de grande qualité, mais vaut mieux ça que rien du tout, quoi, qui était là-bas. Enfin, pour finir, le dernier ouvrage, c'est l'ouvrage de la Vallée étroite. Alors lui, on ne va pas le creuser. Enfin, on va le creuser, mais à ciel ouvert, et après on va recouvrir, parce qu'on va nous dire qu'il n'est pas sous la roche, il est très faiblement enterré, et alors par contre, il est rempli d'eau en permanence. Voilà, il y a de l'eau sur la moitié de l'ouvrage, donc quand on rentre dedans, bah, c'est toujours un peu compliqué. Enfin, rappelez-vous, le casernement provisoire du lavoir, je veux dire, on a fait une grande plateforme. On avait construit le casernement là-dessus, provisoire. Depuis, en 1939, on a construit le gros casernement du lavoir, et l'autre a disparu. Alors ce gros casernement, bah, c'est comme le casernement du Fréjus, on l'a construit tardivement, plus de crédit, la guerre arrive, puis derrière, il ne sera jamais utilisé. Ce qui fait qu'il est dans l'état de 939. La seule chose, c'est que maintenant, il y a un éleveur de chèvres qui fait du fromage super bon, qui est basé dedans. Voilà. Mais ça, c'était un hôtel 3 étoiles pour l'époque. S'il avait été terminé, c'était douche, chauffage central, électricité, voilà, pour loger les troupes de tout le secteur. Alors évidemment, on se retrouve avec cette verrue. Le détruire, mais ça fait partie de l'histoire. Le transformer, oui, mais ça coûte cher. Et puis le béton de l'époque, je ne sais pas trop ce qu'il vaut. Voilà. Enfin, il est là. Voilà, on peut y aller, aller le visiter. Donc, on a parcouru le secteur. Ah, bah, c'est une dernière photo. En 39, enfin en 40. Le lavoir est là. L'ouvrage, il est là. Et il n'est pas terminé. Il reste plus ou moins à l'abandon. Alors, on va rapidement arriver sur la guerre. Je vais vous la faire courte. La Maurienne-et-l'Arve, divisée en trois secteurs, donc suite Basse-Maurienne. Le Moyenne-Maurienne avec bien les ouvrages Maginot de Modane et ceux du Fréjus, et puis la Haute-Maurienne. Donc les plans d'attaque italiens, eh bien ça va être d'attaquer à plusieurs endroits. Ah, je l'ai mis après. Eh bien voilà, on reviendra derrière. C'est d'attaquer sur le Mont-Cenis, ici, d'attaquer sur le Val d'Orbin, d'attaquer sur Modane et d'attaquer sur Valmédie. Mais la plus grosse attaque, c'est en gros Bramont-le-Mont-Cenis et direction de Modane. C'est le plus proche. Les Italiens pensent qu'ils vont rentrer là-dedans assez facilement. Je reviens un peu en arrière, parce que j'étais allé un peu vite. Là. Donc, septembre 39, la France et l'Angleterre déclarent la guerre à l'Allemagne. L'Italie, elle, va rester non belligérante. Elle ne rentre pas dans le conflit. Elle attend de voir ce qui se passe. On va se dérouler une période qu'on va appeler la drôle de guerre. Mais enfin, chez nous, ce n'est pas la drôle de guerre, parce qu'on n'est pas en guerre. On va l'appeler quand même comme ça. On a des reconnaissances aux frontières. Et alors ça, c'est une superbe photo vers le cheval blanc. C'est la section d'éclaireur du 4e BAF du lieutenant Bott. J'avais rien, mais rien. Et puis, je ne sais pas si certains connaissent Claude Bott. Ben, un jour, par une relation, on est rentré en contact. Il me sort 15 photos de son peut-être grand-oncle, parce qu'il n'est pas le grand-père. Les photos, elles sont toutes exceptionnelles. Et ça, ben, elles sont d'une beauté, voilà. Et on est là, on est en manœuvre, on attend de voir ce qui se passe, si l'ennemi attaque ou si l'ennemi n'attaque pas. Je vous ai parlé de Padurac, et bien ça, on est en train de couler le bloc 1, voilà. Ça, c'est la fin du coulage du bloc 1 à l'automne 39, qui retirera pendant l'hiver 39-40. Gros travaux. C'est tous les points d'appui qu'on a déjà vus, parce qu'on l'a vu tout à l'heure. Et jusqu'au 10 juin, il ne se passe rien. Alors, le 10 mai 40, c'est l'offensive allemande, il ne se passe rien. Le 10 juin, c'est la déclaration de guerre italienne. L'Italie qui rentre en guerre aux côtés des barbares contre ses anciens alliés. Évidemment, on a aidé l'Italie en 1859, on l'a aidé en 1917, on a de bonnes relations, une partie de la population est migrée chez nous, et la guerre, l'Italie nous déclare la guerre. Alors, c'est pas l'Italie, c'est le régime fasciste, c'est Mussolini voyant la France qui perd la guerre, ben oui, c'est un coup de traite, elle nous plante un couteau dans le dos et nous déclare la guerre sans vouloir la faire. Parce que lui, il pense que sans attaquer, il va récupérer toutes les Alpes, la Corse et la Tunisie. Le 18 juin, il rencontre Hitler, et Hitler dit non. Il est inconcevable que l'Italie occupe des territoires sans se battre, puisque de toute façon, si on donne des territoires aux Italiens, l'armée française, elle est battue, mais elle se replie. La ligne Maginot, elle est attaquée, elle tient toujours. Il y a l'aviation, les colonies, ça peut durer. Qu'est-ce qu'il veut Hitler? C'est que ça s'arrête avec les Français, signer une paix avec les Anglais pour aller voir les Russes. Donc l'Italie occupera uniquement ce qu'elle va conquérir. Sauf que l'Italie, bah, elle n'est pas prête à attaquer, alors elle masse du monde à la frontière, elle masse du monde à la frontière. Et le 20 juin, les Allemands rentrent dans Lyon. Et là, l'Italie voit bien que s'ils n'attaquent pas, ils n'auront rien. Et donc, c'est là vous avez cette fameuse offensive sur les Alpes. 300 000 Italiens qui ont passé à l'offensive, dont 30 000 sur la Maurienne. Trois divisions, plus des bataillons d'Alpini. Face à 8 500 Français. Mais eux, ils pensent qu'ils vont rentrer là-dedans comme dans du beurre. Il n'y a plus personne, on est face aux Allemands. Et ce qui est frappant, c'est qu'ils ont une très grande méconnaissance des défenses françaises. Puisqu'ils vont attaquer de plein fouet des positions de la ligne Maginot, ils voient bien que les Allemands se cassent les dents dessus avec des moyens lourds. Eux, ils vont les attaquer à la baïonnette et à la grenade. Alors, ils vont tirer avec l'artillerie, comme on va le voir. Mais c'est pas avec ça qu'on va faire du mal. Et voilà, le 20 juin 40, c'est le déluge de feu qui va tomber sur les positions françaises. Du Mont Blanc à la Méditerranée. Alors, le seul truc, c'est que l'armée italienne, l'artillerie, elle est de l'autre côté de la crête. Donc, ils tirent, mais ils ne voient pas vraiment sur quoi ils vont tirer. Mais ils tirent. Et bien sûr, dès qu'ils ont fini de tirer, ça va être l'offensive. Ici, au col de la vallée étroite, ici à Fontaine-Froide, on verra après à la Roue aussi, et au Fréjus. Alors le rapport que j'ai le plus intéressant, c'est ici, un rapport italien où ils franchissent la frontière, mais ils mettent le pied côté français, c'est un déluge de feu qui leur tombe dessus. On a toute la ligne Maginot qui est là, on a de l'artillerie de campagne, c'est celle qui n'est pas dans les blocos, on a près de 100 pièces d'artillerie sur Modane, qui va ouvrir le feu en 4 jours, on va tirer 19 000 obus de Modane. Vous imaginez, on va tirer 21 000 en moyenne, mais la majorité, c'est Modane. C'est un déluge de feu. Et là, quand vous lisez les rapports italiens, mais c'est Verdun. C'est des barrages d'artillerie qui tombent. L'autre, il a son copain qui se fait tuer. L'autre, il se fait couper une jambe, il le porte sur le bras et tout. Et c'est pas romancé. Alors, c'est court, c'est localisé, mais c'est dur. Ils se replient de l'autre côté, les officiers, ben, ils disent, bon, on y retourne. Mais les officiers qui ont fait la guerre 14, ils savent qu'ils iront jamais bien loin. Ils vont se heurter à ces défenses. Et quand c'est pas la ligne Maginot, ben, ça sera tous les points d'appui, les trucs violets. Là, les mitrailleuses, les mortiers, les barbelés, et tout ça va les arrêter. Alors là, on a notre ouvrage du Lavoir qui va tirer de nombreux coups de canon. À l'intérieur, on ne voit pas où on tire. Alors on dira, l'artilleur qui tire à 10 km, on ne voit jamais où il tire. Au canon, en t-shirt, on va tirer sur un char qui est devant. Mais là, on va tirer un artilleur, il tire à 3, 4, 5, 6, 8, 10 km. Et bien du coup, on nous donne les coordonnées de tir, on corrige, et on renfourne et on retire. Voilà par exemple le secteur d'attaque. Entre tous les ouvrages qui sont mis, le Lavoir et le Pas du Roc, la Rondaz, la Roue, voilà, tout ce qui est haché, c'est tout ce qui est couvert par les tirs français de mitrailleuses ou de canons. En fin de compte, tout le terrain est battu. Là, il y a peut-être une petite possibilité de progresser, mais ça se trouve, il y a des énormes montagnes bien hautes. Et on s'aperçoit que tout est calculé pour couvrir le terrain. Et en pleine nuit, en plein brouillard, on peut tirer. De toute façon, on couvrira tout le secteur. Alors, vu de loin, on a notre Pas du Roc qui est ici, le vallon du Fréjus, avec le poste qui était à gauche. Les défenses françaises sont au Fréjus, avec l'ouvrage du Fréjus. Le gros du Pas du Roc, et puis le reste, ce sont des positions, des tranchées, des petits blocos, des abris qui sont un peu partout, et après on part encore sur la route. Donc on voit que tout le secteur, c'est un vrai maillage, et que ces pauvres italiens n'arriveront jamais à progresser. Surtout que derrière, on a l'artillerie française qui se met à tirer obus sur obus. Alors ça va durer 4 jours. Pendant 4 jours, ils vont venir, ils vont se heurter là-dessus, ils ne vont pas aller plus loin. Le 25 juin, la guerre cesse, et donc les Français, ils attendent les ordres, et l'ordre va être progressivement, le 26, le 27, de quitter les ouvrages et se replier. Là, vous avez l'ouvrage de la Roue, voilà les défenseurs et une partie, donc là, il y a Lissner qui est là avec la barbe. Si vous y allez actuellement, on voit encore un peu le camouflage, on voit le blason qui a été construit au-dessus, là, par du génie, qui est super beau. Pour rentrer dedans, il n'y a pas de danger, voilà, rentrez à deux, parce que si vous y allez seul, là, si vous tombez, vous évanouissez, voilà, votre tour est deux, mais il n'y a pas de danger, rentrez dans celui-là. Une autre belle vue, tiens, à Rondaz, il pose devant avec le fanion, le camouflage, et ainsi de suite. Pareil, eux, ils auront bloqué toutes les attaques. Alors, les Italiens, quand même, on dit que c'est des mauvais combattants et des pleutres, non, ils ne sont pas motivés, oui, ils ne sont peut-être pas formés, oui. Néanmoins, ils vont attaquer de plein fouet, et notamment, ils vont arriver sur l'ouvrage d'Arondaz. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire, les Français? On va appeler le Lavoir, on va dire au Lavoir, tirez-nous dessus, nous, on est dedans, on ne risque rien. Le Lavoir va tirer sur l'Arondaz, on appelle ça faire de l'épouillage. Ça dégage les superstructures, les Italiens en prennent plein la poire, et une fois qu'on les a bien secoués, ben là, l'équipage va sortir pour se dégager à la grenade. Voilà. En Savoie, c'est le seul endroit où ça va vraiment se produire, c'est à Rondaz. Et donc, les Italiens, ben, même là-dessus, il faudrait des mines, du lance-flammes, des explosifs, ils n'ont pas tout ça. Donc, ils sont sûrs de rien pouvoir prendre. Alors, ces Italiens, il y a autre chose qui les a bloqués. Ah, ça, c'est... Il faut que je fasse quoi là-dessus? OK. La croix. Et là, ça ne marche plus. Hein. Hop. Et oui, c'est le mauvais temps. Alors, ceux qui sont venus voir la conférence sur Bullard, on en a parlé. C'est que les Italiens, ils ont un bataillon alpini qui vont attaquer à la baie de Pigny, depuis le col de Pelouse, par les montagnes. Et en montagne, les Alpini, les Italiens, ils sont bons. On ne peut pas dire la contre, c'est vraiment des bons combattants. Et arrivés là-haut, ils vont être bloqués par l'artillerie française pendant 4 jours. Moins 15 degrés la nuit. Voilà, il neige le 21 juin 40. Or, qu'on est d'ici, on sait que des fois, il peut faire froid au mois de juin, des fois, une fois fin juillet, il a neigé, là, on en parlait au Télégraphe. Sauf actuellement, on dirait qu'il neige, non, on ne nous croit pas. Le 21 juin 40, à 3000 mètres d'altitude. Voilà dans les rapports italiens, moins 15 degrés, ils notent tout ça. Et donc ça va créer un grand nombre de cas de gelures. Et de... Voilà, ça c'est tous les gelés du bataillon Valdora. Alors c'est pas la retraite de Russie, hein, c'est des enjoues aux pieds aux mains. Ça c'est lui, vous voyez bien qu'il est en train de taper les pieds, hein, il danse la gigue. Et qui ont réussi à même embarquer tous leurs blessés en Italie au col de Pelouse. Et une fois qu'ils sont arrivés là-bas, au bout de 6 heures de portage, les Italiens qu'ils ont emmenés vont revenir revoir leurs camarades. Voilà, on reste unis, on veut avancer ensemble et surtout on laisse pas les copains. Ce sont pas des fascistes, hein, pas du tout, les Alpini, pas du tout, mais c'est des soldats, ils doivent avancer, l'ordre est l'ordre. Ce qui fait que le 24 juin, enfin ils ont l'ordre d'avancer quoi qu'il arrive. Sauf que dans la nuit arrive l'armistice, mais ils sont pas au courant. Et donc le 25, ils vont descendre vers le Mélezais, vers le Jeu, et là ils vont arriver devant les positions tenues par le capitaine Bullard, hop, qui est là. Et bien sûr, les Français vont agiter des grands drapeaux blancs, les Italiens croient qu'ils veulent se rendre, et les Français vont dire « Non, non, la guerre est finie !» Ils n'étaient pas au courant. « Faut que vous retourniez à la ligne atteinte le 25 juin 40. Non, c'est pas possible, on a trop de gens qui n'arrivent plus à marcher. » Alors il va y avoir une grande rencontre entre Français et Italiens pour négocier. Or, il y a des officiers qui arrivent supérieurs, qui arrivent après en belle tenue, qui, eux, veulent aller à Bodane. Alors, les Français disent, bah, allez-y, hein. Mais si vous franchissez le gris, vous allez voir ce que vous allez prendre dans la figure. Donc, l'officier pas très courageux, il repart. Et on va discuter, et on va autoriser les Italiens à rester sur place au Mélezais pour soigner leurs blessés. Et ça y est, vous les voyez, ils ont enlevé, voilà, ils sont en chaussettes. Parce qu'il y en a certains, ils vont couper les cuirs des chaussures pour enlever les chaussures, ils n'arrivent pas à les enlever. Donc autant vous dire que si vous avez du mal à les enlever, vous n'allez pas en remettre pour repartir. Sur 800 hommes, on a 150 cas de gelure. Voilà, pieds, mains, nez. Avec quelques cas d'amputation de phalange. Voilà, donc pas méchant, hein, c'est pas les mains, tout ça. Mais quand même, je crois qu'il y a d'autres photos. Voilà, là, c'est des officiers, c'est des Français qui les soignent. Ils sont en train de soigner tous ces soldats. Et c'est des chasseurs alpins. Hein. Ah, c'est pas des mauvais. Et donc le lendemain. Tous les blessés vont être évacués sur la chapelle du Charmen, puis après transférés à Modane, retournés en Italie par Mancini, sauf les plus graves qui seront emmenés à Chambéry, qui rentreront que le 10 juillet. Ils seront dans un coin de l'hôpital, dans un coin, on ne sait même pas qu'il y avait des Italiens là-bas pour les soigner. On va enterrer les tués du bataillon Valdora. On va descendre les blessés donc, à un autre homme du Charmen. C'est bien alors toutes ces photos, parce qu'au moins ça approuve tout ce qu'on raconte, parce que c'est pas avec des bêtises. Et puis, il y a le grand jour, il faut repartir. Donc, en bas, on met le zèle, c'est le printemps. On dit, oui, bah, c'est quoi ces gelées ? Regardez, hop, ils sont en bras de chemise. Et tout d'un coup, les Italiens, et hop là, ils repartent. Donc là, on a 1400 mètres d'altitude. Oh, tiens, au sommet de la pointe du Fréjus, c'est la retraite de Russie. J'adore cette photo, parce que regardez, hop. Et après, je ne sais plus, après, je ne suis pas sûr que ce soit. Et donc, ils remontent. Et quand on va sur le terrain, qu'est-ce qu'on trouve ? Du matériel italien. Parce qu'évidemment, en montant, hop, la bombe de mitrailleuse, tiens, hop, la grenade, hop, et tiens. Voilà. Donc, on arrive à trouver encore un peu de matériel italien qu'ils ont abandonné là-haut. Mais une fois qu'on est au sommet de la pointe du Fréjus, il faut redescendre à Bardonec. Donc, ils vont redescendre à Bardonec. Ils arrivent, ils sont vidés. Et arrivés là-bas, qu'est-ce qu'on va faire ? Les fascistes, les alpinistes dans un coin, parce qu'on va faire parader, bien sûr, toutes les troupes, les chemises noires. Parce que Mussolini va venir inspecter les troupes. Alors on a des photos au Mont-Cenis, il y a toutes les chemises noires avec leurs couteaux et tout ça. Ils n'ont pas tiré un coup de fusil, ils n'ont rien fait. Et les pauvres alpinistes qui n'en voulaient pas y aller, ben eux, on va les mettre de côté. Alors ceux-là, ça sera encore plus dur après, parce qu'ils finiront en Russie, quand même, en 42. Voilà. Donc le froid de la belle pignée à côté, c'était quand même quelque chose. On va faire une messe début juillet. Les corps vont être déterrés, enfin enlever les cercueils primaires. On va les mettre dans des vrais cercueils. Présentation des armes par les Français et par les Italiens. On va évacuer les tués. Alors, 25 juin 40, c'est la fin de la guerre, on peut dire que l'histoire s'arrête là. Bah, pas du tout, alors, on arrive sur la fin, je vous rassure quand même. C'est que de juillet 40 à 1942, il y a une armée d'armistice en France, il y a 100 000 hommes qui sont autorisés. Et pour surveiller ces fortifications, on va créer des unités de gardiennage d'ouvrage. Alors, censé surveiller, mais en vérité, c'est entretenir, prêt à repartir au combat. À Modane, il va y avoir l'UG 13-14, commandé par le capitaine Bullard. C'est lui qui le commande. Oh, ils ne sont pas nombreux, ils sont une vingtaine. Mais il y a une unité de gardiennage du génie et de l'artillerie. Puis les Italiens se doutent bien que c'est un peu quelque chose qui... Alors on va les dissoudre en 41, et c'est une unité de Lyon qui viendra surveiller, mais c'est exactement la même chose qu'en 42. Alors j'en parle toujours parce qu'on a des photos. Voilà, je pense qu'ils devaient bien se marrer quand même. Hein. Voilà. Bon, il y a peut-être Mardi Gras ou j'en sais rien, ils sont là, ils sont au bas du roc, ils sont là-haut pour surveiller. 1942, dissolution de l'armée d'Armistice. Tout ce qui se passe là-haut, il n'y a plus rien. C'est abandonné. Les Italiens, ils ne sont pas dedans. En 1942, les Italiens, ils sont encore en train de se battre en Afrique du Nord ou en Russie. Et ce qui se passe ici, c'est rien. Voilà. On abandonne tout. C'est ouvert ou c'est fermé, mais on ne sait pas trop ce qui se passe. Tout ça jusqu'à l'été 44. Été 44, débarquement de Provence le 15 août. Les troupes allemandes qui occupent le sud-est de la France n'ont plus rien à faire dans le coin, vont se replier vers le nord ou vers l'Italie. Alors, harcelé par les maquis locaux, donc ça sera le sujet de la conférence de l'année prochaine, parce que je retravaille sur la libération de Maurienne, on verra que la résistance n'a rien à libérer, c'est une volonté délibérée des Allemands de partir, parce qu'ils n'ont aucune raison d'y rester. Après, ils seront titillés par le maquis, voilà, avec toutes les conséquences, mais quand même. Et alors, on a notre vallée du Charmey qui est là, elle va être concernée par une compagnie qui arrive de Grenoble, c'est la fameuse compagnie Stéphane. C'est une unité du maquis, mais c'est du maquis, il a inventé la guérilla, on frappe, on part. Voilà, on reste pas, on n'est pas sédentaire, on ne se fait pas enfermer dans le Vercors, voilà. Et ils vont libérer Grenoble, de là on va reconstituer un bataillon du Crécy-Vaudan avec trois compagnies, dont la compagnie Stéphane, ils vont monter au Galibier, ils vont aller sur Valoire, de là ils vont passer par le col des Marches, descendre sur Bissorte pour surveiller tout de suite Bissorte, on a peur que les Allemands le fassent sauter. Si vous allez sur YouTube, c'est sorti au la Cinémathèque des Pays de Savoie, ils ont mis en ligne un film tourné par un gars de la compagnie Stéphane, où ils sont à Bissorte. Après, vous voyez des vues de Modane, vous voyez des prisonniers allemands à Modane et tout ça. Voilà, Cinémathèque Pays de Savoie, Libération Maurienne, vous voyez le film, c'est super bien. Quoi. Et donc, ils sont à Bissorte pour surveiller qu'on ne fasse pas sauter de le barrage, et puis après, ils passent la crête des Sarrasins et ils descendent. Et les Allemands, qui sont en train de se replier, tiennent Monan, tiennent le tunnel, tiennent le Charmey, et bien sûr, tiennent le Lavoir. Ils sont ancrés là. Bon, là, ils sont tranquilles. Hein. Voilà, ils ont échappé aux assauts du mec plus bas. Ils sont là, ils surveillent la chose. Et ça va durer comme ça jusqu'au 13 septembre 1944. Attaque sur Modane. Alors, Modane, bon, je vous le fais court, hein. Les maquis vont attaquer au nord, et ici, sans aucun succès. La compagnie Stéphane qui est là sera tellement épuisée, n'attaquera même pas sur le Lavoir et le Charmey, ils se contenteront de regarder. Et en fin de compte, ceux qui vont fournir le gros boulot, c'est les tirailleurs marocains qui vont attaquer le fort du Sapin, où ils vont perdre 7 des leurs. Au mois d'août l'année prochaine, il y a une nouvelle stèle qui va être posée pour les tirailleurs marocains au village du Col, un peu plus haut, voilà, avec des cérémonies autour de tout ça, parce que quand même, ça, les 9 Marocains qui ont participé à la libération, c'est quand même normal de les mettre plus en avant, que la stèle actuelle, elle est bien, mais elle est dans un virage un peu dangereux. Donc il y aura toujours qui se passera. Alors le 13, on va prendre que le Sapin, mais ça s'arrête là, et le 14, les Allemands, dans la nuit de l'année du 13, vont partir par le tunnel du Fréjus, vont le faire sauter, vont créer la maison penchée, voilà, grâce à eux, et puis ils vont passer du côté italien. Sauf que ils vont se replier aussi sur le fort du Lavoir, sur le fort d'Arandaz, et ils vont tenir ça pendant tout l'hiver. Alors on pourrait dire que la Savoie est libérée, moi je vais vous dire, tant que le canon allemand peut vous tirer dessus, ou que les Allemands occupent Lancebourg, Lancevillers, et ainsi de suite, on n'a pas libéré la Savoie. La Savoie, c'est libéré qu'on libère totalement le territoire. Au passage, on a fait quelques prisonniers allemands de pays un peu caucasiens. Donc pourquoi ils sont là-dedans? Pourquoi ils sont dans l'armée allemande? Il y a plusieurs solutions. Soit c'est des peuples du Caucase qui sont anti-communistes de l'époque, qui veulent une certaine liberté, donc ils vont adhérer avec un libérateur entre parenthèses. Soit on est prisonnier russe dans un camp allemand, on est en train de crever de faim, on vous donne une solution, c'est battez-vous pour nous. Donc on va créer des os bataillons qui vont venir en France comme troupes supplétives. Pas d'une grande valeur, néanmoins ces troupes supplétives, notamment dans le Vercors, vont quand même faire pas mal, et je pèse mes mots, de saloperies. Voilà. Ce qui fait qu'on appelle ça l'armée Vlassov, c'est lui qui dirigeait cette armée. Il y en a beaucoup qui vont être prisonniers à la libération, qui seront soit exécutés, soit rendus après directement aux Russes. Donc il leur arrivera quand même beaucoup de choses. Maintenant, il y en a d'autres qui étaient juste des pauvres bougres. Alors René Chemin, qui n'est pas là, en a sorti 4 ou 5 à l'Essayon, qui ont été exécutés comme une semaine après la guerre. Donc là, on peut parler de crimes de guerre. Maintenant, on ne saura jamais ce que ces gens-là ont fait avant, voilà, puis on ne le saura jamais, puis on rentre dans une autre phase. Mais donc, voilà pourquoi on a des types caucasiens qui sont dans l'armée allemande. Puis dans l'armée allemande, on a aussi bien une légion arabe, on peut avoir de l'africain, comme on a tous les volontaires européens de la Waffen-SS. C'est un mélange assez gigantesque. Alors, ces Allemands, nous, qui nous intéresse, c'est plus cela. On va remplacer toutes ces troupes d'occupation par la 5e Gewehrdivision. Autrichiens, chasseurs de montagne, Leningrad, Monte Cassino, la Crète. Alors, Monte Cassino, ils sont déjà affrontés aux Français, à tout le corps expéditionnaire, aux tirailleurs marocains, algériens et tunisiens. Ils savent ce que c'est que le Français. Là, ils vont se retrouver en face d'eux, du maquis qui est en train d'être transformé, et ce maquis va devenir progressivement une division, la 27e division alpine, qu'on va recréer. Alors, on a ces Allemands qui sont là, oui, je vais te faire OK, qui sont là en surveillance. Autant vous dire, entre Ekla et sur le front russe, choisissez vite votre camp. Donc, vous êtes dans l'ouvrage du Lavoir. Du Pas du Roc, dans l'ouvrage d'Arandaz, ou en Italie, et vous surveillez le secteur. Avec eux, on a des Italiens, la République sociale italienne. L'Italie a capitulé, mais Mussolini a perduré dans le Nord. Il avait des troupes, soit volontaires, qui sont engagées, soit les appelés de la classe 43 et 44, qui là ne sont pas tous forcément volontaires. Alors les Allemands, sans doute, ils les aiment pas trop, ils s'en méfient. Donc on les arme, mais légèrement, ils vont surtout être utilisés pour ravitailler les points avancés, voilà, plutôt que de les mettre sur des actions combattantes. Bon, enfin là, vous avez deux soldats de la République sociale italienne qui sont là. Alors, ces soldats allemands, il y en a, regardez, je ne dis pas que ce n'est pas un nazi fanatique, mais à l'époque, il doit avoir 18 ou 19 ans, il est mort le 29 septembre 1944 au col du Fréjus, certainement par un tir d'artillerie français. Voilà, il était au mauvais endroit, au mauvais moment. Alors c'est un face-à-face. Côté français, nos maquis, on va restructurer ça, on va faire des brigades FFI. Et comme nous, ceux de Savoie, ils viennent d'arrêter les combats en septembre 1944, on va prendre ceux qui viennent de plus loin, qui ont déjà libéré leur territoire, et notamment la Drôme. La Drôme, ça fait déjà 15 jours, 3 semaines que c'est libéré, et donc c'est la demi-brigade FFI de la Drôme qui arrive. La photo est de mauvaise qualité, n'empêche que c'est la chapelle du Charmey, et ils sont là. Ils vont venir dans le secteur. Ils occupent l'ouvrage du Lavoir, c'est un face-à-face, et ils vont occuper aussi un certain endroit qu'on connaît sous le nom de Chalchalet. La Chalchalet, c'est au sommet des œufs d'Arandaz, il y a un chalet où c'était le poste avancé français. Ils sont dedans, les Allemands vont l'attaquer le 10 octobre, eux ne peuvent pas le tenir, vont partir, et quand ils viennent le récupérer, eh bien, c'est un gruyère. Alors, on a fait sauter plein de choses. N'empêche que tout l'hiver, les hommes vont être dedans. Et alors, quand vous lisez les récits à Chalchalet, c'est comme dans le refuge du Fréjus. C'est une camaraderie qui s'installe. Il fait aussi froid dedans que dehors. Le 31 décembre, ils font une fête du diable avec un gâteau confectionné, du riz, et tout ce qu'ils peuvent, enfourné dans des boîtes à munitions italiennes, recouvert de bouses de vache qui sert de four. Le commandant, il monte. Le colonel Leray, qui commande la brigade, monte. Ils font une bamboula d'enfer. Ils passent. Il y en a, c'est le Noël de leur vie. Ils sont dans un truc, il faut aussi froid dehors que dedans. Alors, quand vous lisez tout ça, c'est vraiment une camaraderie qu'on retrouve. Alors les Français sont dans le Creux et à Chalchalet, les Allemands sont sur l'eau. Alors moi je me suis dit, oui, ils sont face à face. Ouais. Sauf que tous les jours on se tire dessus, tous les jours il y a des patrouilles, tous les jours on va reconnaître l'ennemi. Alors nos chasseurs alpins qui vont arriver en premier, c'est le 15e BCA. C'est ni plus ni moins que le bataillon du Grisivaudan de Stéphane qui revient sous la forme du 15e BCA. Et Stéphane est trop jeune pour commander le bataillon, donc il va commander une compagnie. Alors une compagnie de choc, montagne. Comme il veut des bombes, il va envoyer des émissaires dans toutes les stations des Alpes du Nord pour chercher du monde. Et notamment, il va à Chamonix, qui va ramener un Créton, Chevalier, pour ramener le cousin, tiens, Lionel Terray. Bon, le jeune, Lionel Terray, tu connais? Non plus. Les anciens, Lionel Terray, vous connaissez?
Oui.
Bah, c'est comme Émile Allais. C'est un des premiers grands alpinistes français qui va faire vraiment des exploits montagnes, qui va se tuer bêtement dans le Vercors d'ailleurs. Et Terray, mine de rien, il est à la compagnie Stéphane. Alors eux, c'est simple, hein. Une anecdote, Créton et Chevalier disent voilà, il se fait tirer tous les jours depuis la pointe à côté d'Arandas, là-haut, c'est dommage qu'on n'avait pas les titillés. Hein. Ah ben ça, c'est une bonne idée. Ils étudient la chose, ils en parlent à leur commandant, il faut en parler au colonel Leray, qui commande la défense. Leray, c'est un ancien du groupe de haute montagne, il connaît très bien Terray. Pas de souci, on vous mène l'opération. Et là, ils vont monter, attaquer cette côte par un couloir vertical, piolet, crampons en plein hiver. Ils mettent des heures, ils arrivent au sommet, il fait moins 15 degrés. Là où ils se mettent en position, ils sortent le fusil mitrailleur, pas d'Allemands. Ils attendent une heure. Tout d'un coup, la sentinelle allemande sort d'Arandaz. Ils mettent le fusil, ils tirent, gelé. Alors là, vous pissez dessus, vous faites tout ce que vous voulez pendant une heure. Et puis à la fin, ils n'y arrivent pas. Puis le LTR, il fait bon, allez, c'est aussi bien pour l'Allemand. Puis comme ça, ils ne savent même pas quand on est monté, on pourra revenir. Et bien, c'est comme ça. Et tous les jours, il y en a, tous les jours, il se passe quelque chose. Alors, il n'y a pas beaucoup de tués, il y a peu de blessés. Heureusement, c'est un face-à-face qui dure presque amical, un jeu du chat à la souris. Dans le lavoir, on occupe ça. Alors, il n'y a plus d'électricité, il fait froid, évidemment. C'est humide, on y est mal. Mais au moins, on est à l'abri des obus. Les Italiens qui ravitaillent dans nos petits argentiers, il faut monter le ravitaillement tous les jours. La compagnie Stéphane va toucher son fanion, qui est au 13e BC actuellement. Et la compagnie réserve du 13, c'est la compagnie Stéphane, ça perdure, une amicale, voilà. Il n'y a plus d'anciens. Le dernier est mort, là, il y a 2 mois, de la compagnie Stéphane. Mais c'est vraiment une unité qui a gardé son... Voilà, ils sont restés comme ça. Alors moi, j'ai le grand-père d'un copain qui était dedans, et il est sur le défilé de Saint-Jean-de-Maurienne. Le fameux défilé de Saint-Jean-de-Maurienne de la compagnie Stéphane, ce n'est pas la compagnie Stéphane. C'est la deuxième compagnie du Grisivaudan, compagnie Ribeil, qui fait partie du bataillon du Grisivaudan. Mais l'erreur, elle arrive à une époque qu'on l'a reproduit en permanence. Lui, il s'appelle Gadin, le grand Gadin de Jarrier. Alors, j'ai le prénom, mais je ne l'ai plus. Il défile là-dedans. Et il n'a jamais été. J'ai le listing, il n'a jamais été dedans. Voilà. Mais il avait l'étoile. Donc, on pense que tous ceux qui étaient dans le bataillon du Grisivaudan ont touché l'étoile. Mais ça, c'est encore à creuser, quoi. Alors là, on est au lavoir. Vous voyez qu'on a vu le bâtiment, là. Ben, on a en face à face. Et ça va perdurer. Pendant un moment, jusqu'en février, mars 45. Février, la compagnie Stéphane, donc la première compagnie du 15, avec Lionel Terray qui est là, va partir à Bessan, détaché là-haut, tout seul. Ils vont patrouiller dans leur secteur. Et puis, en mars, ça sera le bataillon qui va partir. Alors, pourquoi il va partir, le bataillon? Ah, ça passe plus, je suis peut-être au bout. Pourquoi il va partir? C'est qu'on va préparer l'offensive du Mont-Cenis. Et donc, tout le secteur, toutes nos troupes partent vers Termignon, et on va remplacer sur le Charmais par le 159e régiment d'infanterie alpine qui revient d'Alsace, qui n'est pas encore apte au combat, et qui va juste tenir le secteur dans un face-à-face où il ne se passe plus grand-chose. Et puis au printemps 45, c'est l'offensive générale sur le Mont-Cenis. Fin avril, les Français vont monter un jour en reconnaissance, puis ils vont s'apercevoir qu'il n'y a plus personne. Ben oui, les Allemands sont partis, donc on va occuper le Pas du Roc, à Rondas, on va arriver au col du Fréjus, on va descendre sur Bardonnec, et en fin de compte, on va libérer totalement le terrain. Je vais juste vérifier qu'il ne me reste pas une dernière photo. Eh bien, ici. Alors, au passage, que ça c'est intéressant pour ceux, il y en a qui sont venus à la conférence de Modane, non? Il y avait Dino Lago. Dino Lago, il a 98 ans, il faisait partie d'une compagnie, c'est la compagnie Mistral. Ce sont des réservistes FFI. Dans chaque département français, on avait des compagnies de réserve FFI prêtes à être mobilisées. Sauf que celle de Modane, elle n'était pas de réserve, elle était, dès le mois de septembre, elle a été mise en place au Charmey. Et en février, elle va rentrer dans la composition du 15e BCA. Et donc, Dino Lago était là-haut, 98 ans. On a discuté, alors la conférence, on l'a attaqué d'abord par 45, parce qu'il était fatigué pour qu'il puisse partir après. Donc, moi j'avais ses écrits, ce qui lui reste en mémoire, c'est un peu toujours la même chose, mais quand même, on s'est mis à discuter de choses. Et bien ces deux filles qui étaient là, elles font, mais ce qu'il nous dit là, il nous l'a jamais dit. Je dis, mais vous le comprenez pas, vous savez pas qui c'est le colonel Leroy, vous savez pas qui c'est le colonel Lecoronel, vous savez pas qui c'est Stéphane et tout ça. Et moi, avec le peu de recul que j'ai, il me parlait comme si j'étais un copain de la section. Je lui sors cette photo, ça vient pas de chez lui, ça vient de la Drôme ça. Il reconnaît un tel, pas tous, mais les trois quarts, il les a reconnus. C'était super, super émouvant de voir la chose. Enfin, eh ben, le poste du Fréjus qu'on a vu construire tout à l'heure, le voilà en 45. Alors pourquoi il est dans cet état-là ? C'est que c'est pas en 40 qu'il a été détruit, mais en 45, quand les Allemands vont l'utiliser, le premier truc qu'on va faire à la artillerie française, c'est tirer dessus, et vont le pulvériser. La route d'Outrunet en Tarentaise, pourquoi elle est détruite ? Parce que l'artillerie française a tiré dedans ce que les Allemands étaient dedans. Le fort de la Tura, pourquoi il est endommagé ? Parce que les Allemands étaient dedans, les Français ont tiré dedans. Donc c'est paradoxal, mais c'est des fortifications construites par les Français pour lutter contre des Italiens qui vont être détruites par des Français parce que les Allemands étaient dedans. Je pense que quand on a construit le fort, on n'aurait jamais pensé que les Allemands mettraient un jour les pieds ici. Alors c'est pour ça que si vous retournez sur le terrain, eh bien on a tous ces vestiges qui ont une histoire. Cette histoire, elle est aussi bien construite physiquement, que construite avec moralement, avec des histoires humaines. Moi, j'essaie toujours d'en raconter un peu, mais sinon, on pourrait en avoir pour 2 heures, et je pense que j'ai déjà été assez long. Mais voilà, ça, on pourra en parler. Et donc, ce qui m'intéresse dans toute cette histoire, c'est pas le combat, c'est la vie des soldats français, allemands ou italiens, qui la plupart sont des pauvres bougres, qui n'ont rien demandé, et qui se retrouvent là-dedans. Et ce qui est dans ce côté tragique, il y a toujours des petites histoires comiques, et c'est ce que j'aime bien, ça montre un peu un côté encore un petit peu humain dans ce conflit par rapport à ce qu'on voit de temps en temps actuellement. Enfin bon, je vous remercie de m'avoir écouté. Je ne sais pas combien de temps j'ai parlé. Une heure et demie. J'ai enlevé des photos par rapport à Modane. Alors à Modane, la différence, c'est qu'on a, j'ai retrouvé un film. On m'a donné un film il y a 25 ans qui a été tourné là-haut, que depuis on a mis en DVD et on aura 15 minutes tourné au poste du Lavoir et autour, au du Fréjus, avec des soldats en manœuvre et tout. Et donc, au lieu de voir des images, tu vois des films de la chose qui se passe. Mais bon, là, ici, je mets ça. Ça sera le salon du livre et on n'aura pas attaqué. Bon, s'il y a des questions,
tu peux toujours répondre.
Pouvez-vous me donner le titre et le nom de l'auteur du livre que vous avez cité ? Maria Marguerite.
Ah oui, alors c'est le Marguerite, ça s'appelle Le Poste des Neiges. Je viens d'en trouver un sur eBay ou Delcamp la semaine dernière. Donc, vous pouvez. Ouais, le poste des neiges, c'est Marguerite.